C'est un petit pas pour les chroniqueurs, mais un bond de géant pour les fans de Formule 1. Nous allons couvrir ensemble le warm-up, nous allons nous échauffer du Grand Prix de Styrie, le premier et unique Grand Prix de Styrie de l'histoire de la Formule 1. Voilà, on va revenir ensemble sur les essais libres, les qualifications et un petit peu d'actu. C'est Dino au micro. Et pour vous accompagner en cette soirée, même si vous ne nous écoutez pas en soirée, hein, mais en cette soirée, je donne la date comme ça, du 11 juillet 2020 à 21h05, il y a à ma gauche Bûcheur. Bonsoir Bûcheur.
Bonsoir.
Il y a à ma droite Ben Lop. Bonsoir Ben Lop.
Ça me dérange beaucoup d'être à ta droite, mais écoute, bonsoir.
Il y a pire, il y a derrière moi Yannick Doc. Bonsoir Yannick Doc.
Salut. Tu vas bien Dino?
Bah écoute, ça va. comme un samedi soir.
Pourquoi on dirait que tu serres les fesses Dino?
Bah il faut bien, sinon il n'y a pas contact.
Messieurs, respectez les gestes barrières, je vous en prie.
Ah, rien. Non, mais on a mis un masque.
Ah, ça va.
On sait pas où, mais il y a un masque.
Il y en a un quelque part. On l'a perdu entre temps.
Les matchs de catch, les masques de catch mexicain ne comptent pas.
Ah merde.
C'est dommage.
Messieurs, d'abord, je voudrais avoir votre avis sur ce circuit et cet environnement du Grand Prix de Styrie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une nouveauté. Voilà, un petit peu vos retours, vos impressions. On fait
c'est
ça à chaque fois qu'on va dans une nouvelle destination.
C'est plus vieux là-bas.
J'ai une sensation de déjà-vu, bizarrement. Il me rappelle un circuit, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus.
Ouais, pareil, c'est assez bizarrement familier. Même ce nom Styrie, c'est quelque chose qu'on a, je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus non plus, non.
Ouais.
Surtout le hashtag utilisé par la F1 aussi me semble très familier.
Attends, lequel pour... Celui du vendredi ou celui du samedi?
celui officiel de la F1 me semble en tout cas très familier, et pourtant je comprends pas parce que c'est un Grand Prix totalement différent. Je trouve ça manque de clarté.
Mais comme les graphiques, ils te mettent des graphiques genre les dernières pôles et t'as Bottas 2020. Mais non, mais il n'y avait pas de Grand Prix de Styrie. Enfin oui, mais non. Oui. Voilà, c'est pas le même Grand Prix.
Bah, pas du tout, rien à voir.
Donc messieurs, on a pas mal d'actu qui sont arrivés ce week-end. Ce que je vous propose, c'est qu'on les traite en fin d'émission, qu'on bazarde un petit peu les qualifs, etc. Donc dans 5 minutes, on parlera d'actu. quand je vois les Ferrari, j'ai envie d'aller vite, contrairement à elle. Mais voilà, on verra ça à la fin. Essai libre 1, essai libre 2, sur le sec. J'ai plus les temps sous les yeux, donc démerdez-vous. Mais vos impressions, messieurs.
Mais quand on n'a pas... Okay. Non, mais bizarrement, en essai libre 1 et 2, on n'avait pas la même hiérarchie que la semaine dernière.
C'est normal, c'est pas le même Grand Prix.
C'est vrai. C'est rien à voir, on l'a dit. Hein. Du short, tu suis pas.
Mais alors, justement, ça c'est un point. Est-ce que c'est quelque chose, vous attendiez à avoir, dans la hiérarchie des essais, est-ce que vous attendiez à des choses de différentes? Sur la course, on a eu de toute façon une course qui était quand même assez exceptionnelle la semaine dernière. Donc bon, à la limite, on s'attendait plutôt à avoir quelque chose de différent, quitte même à ce que ce soit chiant. Mais dans les essais, est-ce que vous espériez avoir des changements comme on a pu les voir, hein, les pressentir un peu dans ces essais?
Bah, on a vu quelques évolutions apportées chez certaines équipes. Je pense à Red Bull, je pense tristement à Ferrari aussi. Je pense les quelques évolutions comme ça. En tout cas, c'était intéressant d'observer les éventuels changements qui pouvaient prendre place, tout en sachant que Mercedes allait rester super fort et qu'il y avait aussi une bonne certitude qu'ils allaient avoir résolu leurs problèmes de fiabilité du week-end précédent sur un circuit tout autre.
Alors, essai libre 1, déjà, bon, première place des Mercedes Rose.
Encore? Non, on va pas commencer avec ça, merde.
Non, c'est pas...
Alors, attends, est-ce qu'on est sûr que les Racing Points sont des Mercedes Rose, ou est-ce que c'est les Ferrari qui sont des As Rouges?
Moi, je pense que les Ferrari sont des As Rouges.
J'en suis sûr cette année, effectivement.
Et qu'en vrai, c'est Racing Point qui a vendu son châssis, mais en fait, ils sont venus du futur pour vendre leur châssis à Mercedes l'année dernière.
Ah, j'aime bien, je vais proposer ce scénario à un ami hollywoodien. Il y a des voyages dans le temps et tout, ça sera forcément formidable.
Casse-gueule les voyages dans le temps, mais bon, oui.
Ah oui, mais toujours. C'est toujours foiré au cinéma.
Oh, ça se finit en train. Faut avoir des références, excusez-moi.
Je l'ai.
Donc...
Ouais, on l'a tous.
Non, sois pas fier, Bûcheur, c'est bon. Donc effectivement, la grosse nouveauté sur les essais libres 1, c'était les Racing Point qui ont été plutôt efficaces sur ces essais libres 1. Moi, en qualif, on le verra. Devant Red Bull, Max Verstappen qui fait le meilleur temps en essais libres 2. Les Mercedes un peu en retrait. Encore une fois, Hamilton semblait un petit peu en difficulté. Sur cette hiérarchie, déjà des petites remarques, messieurs ?
Non.
Non, c'est pas grand chose à dire. C'est vraiment comme tu l'as décrite. C'est vraiment ça, effectivement, le gain des Force India. Enfin, non.
Racing
des voitures
Point.
Roses. Merci. Des voitures roses, Racing Point, et pour enfin pas grand chose de remarquable à part ça, je trouve, effectivement.
Ah, et la petite sortie de Ricardo en libre 2.
Ouais.
Il a topé sa voiture.
Voilà.
Petite sortie.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on peut faire comme Jacques Villeneuve et commenter sur ça, c'est le coup de raquette on voyait plus ça depuis longtemps et c'est le pilote maintenant, ils prennent ça à nouveau. Du coup, ça fait jamais 10 ans. Comme ça fait jamais que 10 ans qu'il dit que c'est nouveau,
ils avaient arrêté les raquettes. De toute façon, les raquettes, ça sert à rien. Ils annonçaient de la pluie, pas de la neige. Enfin,
oui, de toute façon. Et puis, ils jouent pas au tennis non plus. Donc, ça, c'était con.
Ou au ping-pong.
Voilà, non plus. Ni au badminton. Oui. On peut faire tous les sports de raquettes si vous voulez. Vous avez longtemps devant vous ?
Le squash.
Non. Non mais oui, ça a été quand même une assez grosse boîte de la part de Ricciardo qui est sorti en boitillant. Est-ce que vous êtes en mesure vous de savoir exactement ce qui a pu se passer ? Est-ce que vous avez eu des échos de ce qui a pu se passer ? Parce qu'il a perdu quand même assez brutalement à l'entrée du virage 9, si ma mémoire est bonne.
L'impression que l'onboard donnait, c'est qu'il perd l'arrière sur un rétrogradage, parce que c'est donc un virage où on rentre, le virage numéro 9, n'est-ce pas ? Où on rentre vraiment très fort et on rétrograde un peu à mi-virage. Qui est un peu comme l'ami Ricoré, hein. On a déjà parlé de lui, l'ami virage, mais c'est un peu différent, c'est un peu similaire. Mais du coup, il semblerait que ce soit sur un rétrogradage qu'il perd l'arrière. Alors, est-ce que trop de freins moteur, l'arrière qui bloque, Jacques Villeneuve accuserait la régénération d'énergie puisqu'il n'aime pas ça. Bref, ça semble être sur une phase de rétrogradage. Ouais, sur lequel du coup l'arrière se dérobe. Et ensuite donc ce moment où il part dans l'échappatoire très très loin et qu'il survole les graviers qui ne servent à rien et qu'après il va taper le mur derrière. Là aussi, hein, je sais que c'est ma marotte, hein, mais encore une remarque lunaire de Jacques Villeneuve qui nous dit là les graviers qui servent à rien parce qu'il ne s'est pas encastré dedans. Bah oui, sinon la voiture elle fait des tonneaux, connard. Donc heureusement. Bref.
Puis accessoirement, voilà. En fait, le coup des graviers est trop compact. Mais en fait, c'est parce que les graviers. Alors je pense qu'il parlait des graviers trop compacts avant le vrai bac à gravier. Parce qu'effectivement, entre la piste et les graviers, il y a des graviers qui sont très compacts. On dirait du bitume. Sur à peu près 20 mètres. Ce qui fait que la voiture n'est jamais décélérée, garde de la vitesse. Et quand elle passe le bac à gravier qui fait 10 mètres, en fait, elle vole au-dessus. Et elle finit dans le mur.
Qu'est-ce que de l'asphalte sinon du gravier très compact, hein, quelque part ?
Mais c'est ça.
De toute façon, les échappatoires en asphalte, à partir du moment où les voitures ont encore leurs 4 roues, c'est le meilleur moyen pour que les voitures puissent perdre de la vitesse tout en étant sous contrôle et qu'elles ne fassent pas de tonneaux. Effectivement, là, il y a un vieux bac qui est tellement loin que de toute façon, il ne sert plus à rien, au-dessus duquel c'est du gravier. Donc, soit la voiture, elle va sautiller au-dessus du gravier sans ralentir du tout, encore moins que sur l'asphalte, ou faire des tonneaux. Donc, l'un et l'autre ne sont pas forcément souhaitables, sauf si on vend du vin. Faire des tonneaux, c'est bien. Mais du coup, voilà, donc pas beaucoup de décélération et puis il s'encastre effectivement en arrière dans la barrière et puis c'est à peu près le seul truc marquant de cette séance si mon souvenir est exact.
Et finalement il n'y a pas eu énorme de casse parce qu'il a pu reprendre la voiture ils n'ont pas changé de moteur, ils n'ont pas changé de pièce, ils ont juste changé
Oui, même pas de boîte je crois, hein.
Ouais, non,
la boîte en fait c'était la boîte du vendredi et la boîte du vendredi elle n'est jamais utilisée en course donc du coup
c'était FP2, t'as raison,
ouais. Alors, j'étais en train de regarder parce que j'ai un vague souvenir des essais libres 1 et 2, mais j'avais vraiment pas du tout de souvenir. Il y a eu des troisièmes pilotes qui ont roulé ce week-end. Alors, j'avais remarqué Jacket Kane, mais alors Robert Kubica, paraît-il qu'il a roulé ?
Oui.
Oui.
En tout cas, son nom s'est affiché.
Il y a eu son nom, ouais. Si je voulais dire.
On pourrait nous informer quand même.
J'étais content pour Aitken et t'avais souligné son très beau casque, avec quoi je suis tout à fait d'accord. Oui. Sublime oui. Casque d'Aitken, avec en plus un schéma de couleur assorti à la Williams. Très joli, très bon goût, et je pense à un gars solide, Aitken, globalement. Pas un, c'est pas, il révolutionne pas le pilotage, mais à mon avis, c'est un gars sur lequel ils peuvent compter, quoi.
Et pour le coup, Aitken qui a eu une double opportunité, puisque bon, déjà il roule en F1 dès le deuxième Grand Prix de la saison, donc c'est pas mal. Mais surtout, comme Latifi s'est planté, ils ont rebasculé visiblement une partie des opérations de test qui étaient prévues sur le titulaire. Ils lui ont redonné, donc vraiment il a eu vraiment un rôle à jouer lors des essais libres 1, là où on sait que généralement quand c'est une situation comme ça, le pilote réserviste, bon bah il fait un peu les basses œuvres, mais c'est pas lui qui essaye les nouvelles pièces ou les nouveautés ou qui essaye des trucs pour le week-end. Et là, vraiment, il a pu avoir ce rôle-là, Jack Aitken.
Des nouvelles pièces, des nouveautés chez Williams ce week-end ?
Non. Ah. Un nouveau casque.
Ah. Non, mais c'est...
Non, mais je pense qu'ils ont pu essayer des trucs.
Et Williams qui sera en discussion... Williams qui sera en discussion du coup avec de sérieux investisseurs, voire acheteurs d'actions de l'écurie.
Oui.
Oui, mais ça, de toute façon, on en sort. Enfin, il nous parle. Claire Williams parle d'investisseurs de qualité, voilà. Selon ses propres mots. Donc, gageons que Rich Energy n'est pas très loin.
Bûcher, il faudra qu'on discute après cette émission parce que par rapport aux petits investissements que vous voulez qu'on fasse, j'ai regardé les comptes au niveau de la trésor. Ça va être un peu juste.
C'est... Ouais, ouais, mais c'est pas grave, on s'arrangera.
Non, c'est. Il y avait des trucs dans le questionnaire de Prost où on pensait qu'on avait des milliards, mais en fait, c'est un peu gouré.
Attends,
on nous aurait menti.
On parlait un centime de franc.
Ah merde.
Tu veux dire qu'on n'a pas les 40 balles que réclame Williams ?
Non, c'est galère. Tu me diras, si on mettait 1 euro à chaque fois qu'on dit Force India ou le Racing Point, je pense qu'on les aura aujourd'hui. Hein.
C'est probable.
Il va falloir passer à Aston Martin l'année prochaine. Quoi. Pfiou.
Ça ira mieux, ils auront une nouvelle livrée, ça sera plus facile. Enfin, je peut-être.
C'est plus facile de passer de Racing Point à Aston Martin que l'inverse. Il y a un nom que tu retiens plus facilement, bizarrement.
Il y en a un des deux qui est pourri. Donc, déjà, on n'a pas envie de le dire. Donc,
messieurs, si on s'arrête aux essais libres 2, on avait une perspective hier sur piste sèche qui était d'avoir un match entre Verstappen et les Mercedes pour la pole, avec positionné derrière les Racing Point, qui était quand même plus ou moins dans le match. Voilà. Les McLaren un peu en retrait, et puis les Ferrari quelque part entre là et très loin, mais plus proche de très loin que de là. Voilà. Et est arrivé. La pluie. Pas d'essai libre 3. Ça, c'est fini.
À noter que, quand même, un essai libre 2, ce qui était pas assez inhabituel, c'est que, de toute façon, les très fortes pluies pour la journée de samedi étaient annoncées. Et du coup, il y en a quand même qui ont claqué des temps. Alors que d'habitude, l'essai libre 2, c'est plus la recherche du travail, c'est le travail sur les longs relais en préparation de la course. Tandis que là, ils ont quand même fait il y en a qui ont fait des chronos. Au cas où la
grille serait
déterminée par rapport aux essais libres, au classement des essais libres 2.
Alors, j'ai compris sur le fond, mais j'ai pas compris. On a eu une intervention de Ross Brawn, je crois, à la fin des essais libres 3, qui expliquait que, de toute façon, si on était obligé de reporter demain, la priorité serait donnée à la F1. Et qu'ils auraient fait sauter une course de Porsche Super Cup et une course de Formule 2 pour faire la place à la F1 pour les qualifs. Donc, moi, j'ai pas compris pourquoi tout le monde s'est mis un petit peu en stress. Ah, essais libres 2. Parce que
c'était vraiment au cas où
le produit phare c'est la F1, donc ils auraient aménagé le planning pour qu'on puisse avoir des qualifs de F1 dimanche matin.
Je sais pas s'il pleuvait dimanche matin, peut-être que du coup les qualifs n'auraient pas pu se tenir. C'est plus ça.
Il a arrêté de pleuvoir là-bas. Hein. C'est déjà fini.
Les prévisions elles étaient clairement sur aujourd'hui. Hein. Demain il n'y a aucun risque pour demain, visiblement.
Et en pratique, d'ailleurs, je crois que, et d'ailleurs, très bonne prédiction de leur part, les stratégistes de Ferrari avaient carrément marqué dans leur calendrier que c'était dimanche matin la qualification. De très bonne prévision de leur part, hein, ça s'est parfaitement déroulé comme prévu, comme d'habitude. Eux, ils partaient du principe que de toute façon, dans le pire des cas, la qualif c'était dimanche matin. Et oui, je pense que ça n'a jamais vraiment été en doute parce qu'à partir du moment où il a arrêté de pleuvoir dès ce soir, Demain matin, oui, on fait sauter la Porsche Super Cup que personne ne regarde. Et puis voilà quoi. Je pense que la F1, c'est très facile de faire sauter ça. Un peu moins peut-être de faire sauter la F2. Par ordre à faire sauter, c'est la Porsche Super Cup, on s'en fout. La F3, bon, c'est dommage. La F2, ça fait vraiment chier. Et la F1, c'est forcément le gros du truc. Donc forcément.
Ça fait mal.
Exactement. Non, mais si on a besoin de faire sauter à quelque chose, on peut le faire.
Oui. Oui, non, mais c'est juste qu'ils ont. Je pense que c'était histoire de communiquer auprès des médias en disant voilà, c'est déjà prêt. Tous les scénarios sont prévus. Ne vous inquiétez pas.
Bon, ça a eu l'avantage de nous faire effectivement une séance d'essai libre 2 qui était assez intéressante. Ouais. On a vu les écuries qui se sentaient prêtes et puis on a vu Ferrari qui continuait à faire des essais.
Et je crois toujours à Barcelone.
Ils se sont dit.
Non, en fait, je crois qu'ils ont fait leur tour rapide.
Ah, merde. Ah bon?
Ne dis pas ça, Ben, merde.
Non, j'ai même pas vu les FP2.
Au bout de ma vie.
J'ai même pas vu les FP2, c'était juste facile de bâcher un peu.
Officiellement, je les ai pas vus. Parce que c'est un truc qui est bien, c'est que suite au confinement, tous les lundis et tous les vendredis, je suis en télétravail.
Ah, c'est beau.
Ça m'arrange.
Tu as une petite fenêtre de télétravail et une grosse fenêtre de.
Ah non, non. J'ai le PC du boulot sur un bureau et sur un autre bureau à 90 degrés, j'ai mon PC perso.
Ah oui.
Quel est le numéro de téléphone de ton employeur, Bichon?
Et il a toujours un œil sur ce qui se passe sur son ordinateur de bureau.
Au cas où. Oui. Ah oui. Au cas où je reçois un mail.
Et Bouchard, faut pas que tu te brûles, hein, parce qu'avec l'ordinateur à 90 degrés à côté, ça fait un peu chaud, donc attention.
Alors messieurs, on passe à la qualif. Alors on va donner un peu les coulisses. On va donner un peu les coulisses. Cette qualif quand même dans cette journée, moi m'a un peu pris par surprise. Pour donner un peu les coulisses, j'ai été déménager la maison de ma belle-mère en pensant qu'il y aurait pas de qualif, qu'on se verrait demain. On avait plus ou moins prévu de faire une émission ce soir d'actu et puis demain on ferait un petit warm-up rapide, on ferait un warm-up 2 comme mais ça serait le warm-up Styrie ou un truc dans le genre, on aurait trouvé un autre nom, et en fait je me suis retrouvé comme un con chez ma belle-mère en disant putain faut que je rentre, faut que je voie les qualifs parce que ce soir il y a une émission avec les qualifs. donc déjà des qualifs qui se sont déroulés sous la pluie. Après un trois quarts d'heure de retard, mais quand même, qui sont partis sous la pluie. Il fallait les faire ou pas sous la pluie ces qualifs d'après vous?
Oui. La preuve, il s'est rien passé de mal,
ouais,
et de la maîtrise. À aucun moment ils ont pris de risques. Le seul moment où il y avait une voiture sur le côté, il y a eu un drapeau rouge. À partir du moment où tout est géré correctement comme ça, on a vu les pneus pluie à l'œuvre. D'ailleurs, je suis passé pour un con parce que j'ai regardé la qualif avec un pote en terrasse. Oui, c'était moi aussi. J'étais parfaitement en bonne condition pour regarder ça parce que je finissais le boulot pour mon contexte. Moi, je finissais le boulot à 15h. Donc je sors du boulot, je croise un collègue. Ah toi aussi, t'as fini ta journée. Bah vas-y, viens, on va manger un morceau et boire un verre. Et donc heureusement ils ont mis trois quarts d'heure à démarrer la qualif parce que moi j'étais pas prêt à la regarder du tout à 15h. Du coup on se pose à la terrasse, on commence à manger nos pâtes au saumon, hein, pour ceux que ça intéresse, et avec un iPad posé à côté pour regarder la qualif. Et du coup j'ai passé la qualif à lui expliquer ah tu verras, le jeu ça va être qui passe en premier les intermédiaires. Donc je suis vraiment passé pour un con pour un truc comme qualif.
Ton pote il attend encore, mais alors quand est-ce qu'il passe en intermédiaire?
Quelle couleur les intermédiaires?
Sache que tu étais moins con que la FIA qui a donné un train de pneus supplémentaire à toutes les équipes. Mais des intermédiaires, pas des pneus pluie. Mais les gars, en fait, depuis une semaine, vous nous dites qu'il va pleuvoir toute la journée de samedi, qu'on pourra pas rouler, il faudra reporter. Donnez-leur des pneus pluie, pas des intermédiaires, c'est con.
Oui, je pense qu'ils auraient dû offrir des pneus travel, tu sais, ceux qui servent vraiment à transporter les voitures, hein, ça aurait été aussi efficace.
Sinon, ouais, donc, pâte au saumon avec de la nette et de la crème.
Oui, absolument, un peu de parmesan, absolument.
D'accord, ok. Yannick Doc,
c'est noté.
Les repas de ce midi, les qualifs, le contexte familial, tu veux nous en parler ou pas?
Qu'est-ce que j'ai mangé à midi, moi? J'ai mangé de la polenta à midi, moi.
C'est pas mal.
De quoi?
La polenta.
De la polenta.
Ah. Ouais. Polenta, non?
Ouais, polenta, si vous voulez.
Monsieur, cela fait belge, de la polenta.
Ouais, non, c'est comme ça, on dit pas les A comme ça.
Le A ne se prononce pas E, non.
Le Han se prononce pas
Bûcheur,
à la fin.
C'était le vin pastis, hein. Un Bûcheur.
Ouais, pardon. Bûcheur. Non, mais j'avais pas compris que tu me parlais à moi.
Il est trop tôt pour s'endormir.
T'as entendu le mot-clé, enfin. Quand on te parle Buchor, il y a deux mots. Soit on dit Buchor, soit on dit pastis. C'est pas compliqué, pourtant.
Nous, on se demandait si le contexte était un contexte à base de pastis ou non.
Non, non, c'était du...
D'accord.
C'était une poêlée surgelée...
du cognac.
Non. Avec du poulet et des pommes de terre. Eh, voilà.
Au moins, invente un truc avec plus de panache, je t'en prie.
Oh non.
Si tu crois vraiment que Ben Lop, il a mangé des tagliatelles au saumon avec de la nette et de la crème, mais non.
Bah oui,
non,
bah oui.
C'était des pénées, rien à voir, effectivement.
Il a pris une bolo box comme tout le monde.
D'ailleurs, j'ai pris une double ration bolo de pénées, bien sûr. J'avais double...
Double pénée,
double pénée
ouais.
Bien sûr, absolument.
Gourmand.
Alors, messieurs, qualification, première phase de qualification. Romain Grosjean a fait un tour, problème moteur visiblement. Il est sorti dans les graviers, il est rentré au stand, il n'est plus jamais sorti. Les éliminés étaient Kimi Räikkönen, Sergio Pérez à la surprise générale, Nicolas Latifi et Antonio Giovinazzi. Voilà, le meilleur temps avait été réalisé par, je ne sais plus.
Lewis Hamilton.
Si ma mémoire est bonne.
Non, Lewis
Hamilton. Lewis
Hamilton
déjà.
Hamilton.
Voilà. Des faits marquants, des remarques sur cette course.
Oui, Latifi aurait peut-être pu passer en Q2 si... Parce qu'il était en train d'améliorer son tour. Non, le drapeau rouge. Juste avant, quand il est arrivé dans le dernier virage, donc il a pas pu, il a été obligé de complètement relâcher, normal, pour sur quand on a ce drapeau rouge. Et donc, et apparemment, il aurait éventuellement pu passer et faire légèrement mieux que Kimi ou que Magnussen. Donc voilà, là, il reste le point d'interrogation, c'est pas si ça a été forcément le cas, mais à noter que voilà, il a pas du tout été ridicule à Tiffy pour la première fois dans des conditions humides et qui étaient vraiment pas les plus faciles au volant d'une F1. Je tiens à le souligner.
Ouais, mais Jacques Villeneuve, il a dit que c'est parce qu'il était anglais, du coup il avait l'habitude.
Non, ça c'est Russell.
Ça marche aussi avec.
Ils sont tous anglais.
D'un autre côté.
En même temps, le mec vient de Montréal, hein, donc bon, en termes de météo, vous m'excuserez. Hein, c'est pas... vous
m'excuserez ah, pas. Lui, les coups de raquette, il connaît.
Ah, c'est vrai. Bien joué, habile. Non, beaucoup mieux les Williams quand même, du coup.
Oui.
C'est un peu, c'est un peu rassurant. Là, la semaine dernière, on se disait déjà, ça va un peu mieux. Ils peuvent se battre avec Haas. Alors, est-ce que c'est triste pour Haas ou bien pour Williams? On hésite encore un peu. Mais là, on se dit, c'est, voilà, ils remontent. Russell qui passe en Q2. Alors, est-ce que c'est grâce à la pluie? Je pense pas, parce que c'est pas ça qui. Enfin, ils n'ont pas de déficit de puissance compensé par la pluie ou ce genre de trucs comme ça. Donc la voiture a l'air plutôt saine et c'est par rapport à la bouse qu'ils conduisaient l'an dernier, c'est quand même vachement rassurant.
Ouais, mais justement, est-ce que si la voiture de Stannel est bien équilibrée, elle, du coup, elle est plus facile à amener aux limites sur piste humide. Et c'est au contraire des voitures qui sont sur sec plus performantes et qui ont pas un équilibre aussi sain seront plus délicates et dans ces conditions. Donc je sais pas, je suis pas sûr que la Williams c'est si je pense que la Williams a progressé depuis l'année dernière, mais je pense pas que la 12e place en Q1 qu'a fait Russell soit la révélatrice de la performance de la Williams. Je pense que les conditions aident beaucoup à ça, mais ça prouve je pense surtout le talent de Russell en tant que pilote.
Ouais, puis faut modérer quand même le fait que Haas et Alpha ils ont un moteur moins bon maintenant, quoi. Ils sont forcément descendus, eux, dans les
rayons. C'est des rumeurs.
Pourquoi tu
quand Williams remonte, et là, ils se sont croisés vite fait, quoi.
Ouais. Par contre, je profite que Scani soit pas là, mais c'est le pilote mexicain. Heureusement qu'il amène des millions hein, pour son baquet, parce qu'il s'est pris une tatanée par son coéquipier.
Oui. Qui est de mémoire 8e en Q1, là où Pérez est 17e. Quoi. Et tout le temps, Stroll était vraiment meilleur que Pérez.
Ouais, sans vouloir faire un titre à la FAB, on peut dire que Pérez s'est noyé dans cette séance de qualification. Mais le très étonnant.
Moi, ça m'arrange, il y aurait un baquet de libre.
Oui. Dino, nous ne rentrons pas dedans, de toute façon. Nous ne rentrons pas dans le baquet.
Non, je parlais pas pour moi.
Ah, pardon. Non, mais Pérez, ouais, il perd des ans. Je pense que Racing Point, il commençait à peine à maîtriser l'exploitation de leur voiture sur le sec. et bim, gros orage. Et là, ils sont perdus, en fait. Et ça se voit sur les deux voitures, parce que même si Stroll fait beaucoup mieux que Perez, il n'est pas du tout au niveau auquel on les attendait. On reviendra dessus tout à l'heure, j'imagine. Mais ouais, ils sont complètement en deçà du niveau qu'on attendait d'eux et du niveau qu'ils ont montré, du coup, sur les séances d'essai sur le sec. Et en vrai, ils sont vraiment encore en phase de découverte de la voiture pour le moment. Ils ne maîtrisent pas encore l'exploitation et les setups comme il faut. Et je trouve que ça se voit un peu de ce côté-là.
Je fais juste un bref. Vas-y.
Bien sûr, vas-y, je t'en prie.
Non, mais vas-y, parce que je vais faire une parenthèse. Donc.
Pardon, je voulais juste évoquer le cas Grosjean très rapidement aussi. Mais parce que, du coup, pendant que je mangeais mes pâtes au saumon, là, avec de la nette et du parmesan,
j'étais avec.
j'étais en terrasse, donc dans un café où je buvais aussi une cuvée des drogues, il faut le savoir.
je me doute que tu buvais pas d'eau, ouais.
surtout, du coup, je regardais la qualif sans le son. Donc moi, ce que j'ai vu de mes yeux sur mon écran, c'est Romain Grosjean qui sort dans le gravier. Donc là, maintenant, vous me dites qu'il y a un problème moteur qui l'est mis dans le gravier, c'est ça?
Ben, apparemment, oui, de ce qu'ils ont...
Alors, un problème d'échangeur ou je sais pas quoi.
Oui, Grosjean lui-même, hein, c'est très drôle parce que interrogé par Canal+,
il savait pas, quoi.
On lui demande, alors Romain, quel est le problème? Oui, bah, c'est un problème dans l'interface du... on est en panne.
Il a sorti les rames de fou.
Ah bah c'était la météo.
Il a essayé d'expliquer le truc en essayant de trouver le truc complexe. Il a dit bah, c'est le moteur, bon, on est en panne.
Merci
Romain Grosjean.
Mais c'est surtout quand il dit comment c'est dire, c'est la pompe, l'échangeur haut. Bref, mais tu sentais qu'à un moment donné qu'il était dépité, qu'il n'avait rien à foutre en fait. Qu'à un moment donné, il voulait plus. Ouais, c'est surtout ça quoi.
L'hypothèse qui était donnée par Jacques Villeneuve sur le replay, c'était que parce que on a bien vu après que ils étaient en train de travailler sur l'environnement du moteur, donc ça posait des questions et Jacques Villeneuve expliquait que peut-être que la sortie de piste était due justement à un problème moteur et que c'était un manque de frein moteur ou ce genre de choses qui faisait que il aurait raté le virage et serait sorti et que c'est plus le moteur qui aurait été à l'origine de la sortie que l'inverse.
Ah oui, parce que
pas de frein moteur et...
ouais. Pas de frein, pas de frein moteur,
ça commence à devenir compliqué, quoi.
Putain, merde.
Mais pas de moteur.
Mais quand...
oui, bah, depuis, en fait, c'est ça. Ils ont cherché le moteur, les mécanos, pendant une heure.
Quand on a vu le replay de la sortie de Grosjean, on voit qu'en fait, quand il aborde qu'il commence à braquer pour prendre le virage, mais il va pas vite du tout. Il doit être à 60 ou 70. Tu te dis,
mais ça rappelle un... Ça rappelle un peu le crash de Vettel en Allemagne il y a 2 ans. C'est-à-dire que ça n'a pas l'air rapide, tu te demandes comment il peut sortir, et pourtant il sort.
Et tu sais, Buchor, ils étaient à 60-70, en fait, ils étaient en train de tirer tout ce qu'ils pouvaient du moteur Ferrari. Hein.
Le mec avait un patinage de malade.
Oh lol.
C'est con, on va pas parler de la pole de Lewis.
Bah, peut-être qu'on débordera un peu.
Il reste 50 secondes, allez.
C'est bien ça.
Avant de passer à la culeuse, je voulais juste faire une petite parenthèse sur Williams, vous en parliez. Quand même se rappeler que Williams fait une assez nette progression tout au long de la saison l'année dernière, où vraiment ils ont un gros déficit en début de saison et ils arrivent à le rattraper. Donc au final, c'est pas si surprenant que ça ce qu'ils soient aujourd'hui. Ils arrivent à se mêler à la lutte, ils étaient bons quand même à Barcelone. Et c'est vraiment le fruit aussi d'un travail de l'année dernière, où ils ont très mal débuté l'année, avec Padillo qui s'en va, etc. et des gros problèmes en interne, mais ils ont réussi à mettre les choses à plat et Williams a toujours démontré aussi cette capacité à quand même développer et avancer et faire les choses même dans la difficulté, donc voilà. Ah, merci Buchor qui a désactivé la fin automatique. Vous aurez donc droit à notre débriefing sur la pole de Lewis Hamilton.
Sinon nous on est très disciplinés, on sera arrêté de toute façon.
Ah bah nous on se serait arrêté
voilà. Parce qu'on est bête et discipliné, mais surtout bête.
Oui,
alors non, pas 10, non, non,
on est 4.
Non, pas les 4 pinés seulement.
Oh bordel.
Moi je sens que Buchard va dire si vous continuez, je réactive le truc automatique.
Non, je balance le générique de fin, point.
Pas de sommation.
Et me dites pas, pas cap, ce serait mal me connaître.
Non, on ne dira jamais ça. Non, Bichard, lâche ce bouton.
Arrête plus je passe ce bouton, Bichard. Arrête tes conneries. Fais pas le con.
Donc, la Q2 rebelote. Hein, donc, on l'a pas dit, mais sur la Q1, bah, comme tout le temps sous la pluie, les mecs sont partis en pneu pluie. Sébastien Vettel le premier. Voilà. J'en profite hein, dès que je peux parler de Vettel.
Il était premier, ça vaut le coup de le dire, effectivement.
Il y en a que plus pour quelques mois, profitez-en. Et donc, les mecs roulent. voilà, jusqu'à la fin.
J'ai jamais entendu un résumé qui est formidable d'une épreuve automobile.
Non, punaise.
Bon, bah, les mecs, ils montent dans la voiture, et puis après, ils partent, et puis après, ils roulent.
Et puis, ils roulent, et après, ils s'arrêtent.
Et après, c'est la fin, c'est génial.
Non, après, ils reroulent.
Putain, mais je pleure, pardon. Je pleure.
Vous m'avez compris. Ouais, généralement, ils partent, ils roulent, ils rentrent, ils ressortent, ils reroulent, et voilà. Là, non, ils sont sortis, et ils ont essayé de sécher la piste jusqu'à faire meilleur temps. Donc voilà, c'est comme ça que se fait la dynamique. Et c'est haletant tout du long de la séance. Voilà, j'explique la F1 pour les nuls. Q2, c'est pareil. voilà. Donc, Q2, si ma mémoire est bonne, c'est toujours Hamilton qui fait le meilleur temps, ou peut-être Verstappen, je sais plus. Enfin, vous vérifierez dans les temps, démerdez-vous.
C'est Hamilton qui fait le meilleur temps.
Ah, merci Yannick Doc, t'es mon préféré de tous les Yannick. Voilà, en dehors d'un Yannick que je connais, que j'apprécie assez bien. En Q2, les éliminés sont Magnussen, 15e, Danny Kvyat, 14e, Lance Stroll, 13e. Donc Lance Stroll plutôt décevant par rapport à ce qu'il avait montré en Q1. George Russell, 12e, sa meilleure qualif, une 12e place. On parlait des Williams tout à l'heure. Et alors là, attention, c'est même pas surprenant. C'est une Ferrari qui est 11e, mais c'est Charles Leclerc en 11e position. Ça s'est joué entre Leclerc et Vettel pour la qualif en Q2, en sachant qu'en toute fin de Q2, ça s'est un petit peu dégradé au niveau des conditions, donc ça devenait très dur d'améliorer. Vos remarques, messieurs, sur ces éliminés de la Q2?
Russell presque en Q3.
Ouais, franchement, ça, j'étais content, oui. Quoi. J'aurais été même partant pour qu'il aille en Q3. Hein. Moi, ça m'aurait fait plaisir.
Il est à un dixième hein, de la Q3.
Ouais. Mais non, sur une Ferrari, quoi.
Mais c'est incroyable.
Oui.
Ah non.
Non, les gars, arrêtez. Non, sur une Ferrari, c'est bon, arrêtez. Sur une Ferrari.
Non.
Une Mercedes, pas une Red Bull, pas une McLaren, pas une Racing.
Non.
Une Ferrari.
On dit Ferrari en italien et Trapanel en français.
Voilà, on a Trapanel.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Trapanel chez Ferrari. Hein.
Bah, c'est bizarre, ça me manquait pas.
Bizarrement.
Je pense que les Ferrari, très confortables à ces positions-là, ils aiment bien, manifestement.
Du coup, Leclerc, il pourra choisir ses pneus. Pardon.
Tiens, un couteau, il me plaît, c'est juste... Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Non, mais c'est bon, on rigole, mais c'est un peu tristoun quand même. D'autant plus qu'ils avaient dit, ouais, du coup, on a rushé les updates qu'on avait pour la Hongrie, on a la majeure partie qui est ici.
Ouais, ils auraient peut-être pas dû trop rusher, quoi.
Non, ils auraient peut-être pas dû les rusher. Comme tout le reste de la voiture, ils auraient probablement pas dû le rusher. Mais oui, bah, sinon, sur les éliminés, Daniil Kvyat qui se prend une grosse torgnole par Pierre Gasly, je tiens à le signaler. Voilà, ça c'est fait. Je vois que ça suscite des réactions enflammées.
Ah oui, non, mais c'est clair que là, il y a torgnole, ouais.
Mais moi, je comprends vraiment pourquoi est-ce que dans F1 2020, Daniil Kvyat, il a 85 en rythme quand Gasly a 80. Vraiment, c'est parfaitement logique et expliqué.
Non, mais putain, mais... Je cherche pas à comprendre les stats AWS de la FIA, c'est...
non, c'est pas les stats AWS, je parle de ceux de Codemasters, c'est encore mieux, c'est encore plus scientifique et recherché, paraît-il.
Je sais pas, c'est présenté avec les mêmes graphismes, alors moi je sais, je mets tout dans le même panier, hein. De toute façon c'est tous à côté de la plaque, alors...
Non mais sinon, comme tu disais... Ouais, pardon, vas-y.
Non, mais il suffit juste de regarder, les Ferrari sont bien classés à chaque fois que tu fais une course, hein. C'est pas cohérent, hein. C'est pas logique.
C'est vrai qu'il y a quelque chose qui...
Ça a été codé avec la teub.
Et puis bon... Si t'écoutes Codemaster, après ce week-end, Lewis, il va avoir 110 en note.
En même temps, est-ce qu'il le mériterait pas un peu? Le débat est...
Peut-être.
99?
Parce qu'il a 94, mais du coup, je vois pas. C'est comme les... Bah, je me fais la même remarque que Jacques Villeneuve a faite. Je suis d'accord avec Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui m'arrive?
Putain, générique de fin.
sur, tu sais, les, bah justement, tu parlais des scores AWS avec les notes des pilotes. Donc, autant c'est intéressant de savoir qui est le plus rapide ou pas dans les différents types de virages. Ok, pourquoi pas, c'est une info. Mais effectivement, la note où genre le mec est premier, donc il a 8,4. Pourquoi pas 10 alors? Tu sais, j'ai l'impression des gens qui disent non, mais la perfection n'existe pas. Je comprends pas trop les notes. Après, c'est bien d'avoir l'info de qui est le plus rapide, qui est pas le plus rapide, pourquoi pas, tu sais, dans les différents types de virages, tu dis tiens, c'est là que tu vas gagner du temps. En vrai, c'est vrai qu'on s'en fout parce que de toute façon, le résultat à la fin, il dépend de ça.
Mais parce qu'on le voit, nous, avec les temps des secteurs. On sait en Autriche de. Ah, pardon, en Styrie. Sur la Red Bull Ring.
Faudra qu'ils voient ça. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que les deux tracés se ressemblent.
Mais ils ont le même nom en plus. Donc franchement, Red Bull, ils devraient attaquer en justice pour copie. Bref.
Tu veux dire que Red Bull, ils auraient fabriqué deux fois, enfin c'est même pire, ils n'auraient pas fait deux fois le même circuit. Ils ont fabriqué deux fois les mêmes montagnes dans deux endroits différents pour faire le même circuit.
Apparemment.
Mais c'est un peu con, hein.
Ils ont vraiment du pognon à claquer.
Oui, parce que dans le projet le plus cher, c'est Tilk. Donc, t'enlèves les frais de Tilk, c'est bon, hein, c'est pas cher.
Ouais, mais c'est qui a designé les montagnes?
C'est qui a designé les montagnes?
Dieu.
Tu vas faire croire qu'il est gratuit.
Ah putain.
Plusieurs fois, j'ai demandé des devis, il a refusé. Hein.
Puis quand tu vois le pognon que prend l'église.
Sacré Kiki.
On parlait de Charles Leclerc.
On parlait de Formule 1 à un moment donné, peut-être.
On parlait de Charles Leclerc.
Alors, il y a longtemps.
Charles Leclerc qui a eu un interview d'après Calife qui a dit qu'apparemment lui il aurait orienté son setup quand même pour la course demain. Donc j'attends qu'il ait pas de rythme du tout en course demain. Mais voilà, c'est ce qu'il a déclaré, que effectivement il avait un peu sacrifié la qualif pour la course.
Mais les deux pilotes Ferrari avaient l'air satisfaits. Alors Vettel a carrément dit que c'était une voiture totalement différente. C'est bon mon gars, il y a juste le fond plat et l'aileron avant qui a changé. Mais ça a tout changé. Et c'est vrai qu'il faudra voir demain. Demain on verra, parce que pour le coup, eux, ils ont vraiment travaillé sur la journée complète de vendredi. Ils n'ont pas forcément cherché à faire des temps. Donc du coup, ils ont peut-être plutôt travaillé en vue de la course. Donc à voir ce que ça pourra donner. Mais petite info dernière minute, Charles Leclerc qui était sous double investigation. Une investigation pour avoir bloqué Danny Kvyat, et une investigation où il n'était pas le seul, mais ils étaient plusieurs, pour ne pas être rentré, je crois, dans la voie des stands après le drapeau rouge, a été blanchi de sa dernière infraction, comme Kimi Raikkonen, mais par contre a été reconnu coupable d'avoir gêné Danny Kvyat, même si Kvyat visiblement avait un peu diminué les choses, et donc a pris 3 places de pénalité. Il partira 14e, ce qui nous fait remonter George Russell en 11e position, Stroll 12e, et Danny Kvyat donc 14e. Donc là, pour le coup, un bénéfice direct de Kvyat. À noter que Perez aussi était convoqué par les commissaires pour une histoire sous drapeau jaune, je crois. Mais il a été blanchi.
Tout à fait. Donc Charles Leclerc, 14e. D'ailleurs, je faisais une réflexion comme ça. Mais ça tombe bien qu'on ait vraiment renommé le podcast en le SAV et non plus le SAV de la F1, parce qu'on peut continuer à parler de Ferrari.
Alors, moi j'ai envie de te dire, Ben Nop, je t'apprécie. On a été l'un à côté de l'autre pendant les SAV d'or.
De longues heures.
Mais bah, je dis pas, ça prenait de la place du côté de la table.
Mais nous au moins on arrivait à s'en approcher, même si on avait un gros ventre.
C'est vrai.
Ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui ont un gros ventre, excuse-nous.
Je ne vois pas de quoi tu parles.
Moi non plus, ça ne m'étonne pas, même pas cap. Bon, alors messieurs, Q2, on a fait le tour.
Les belles perfs, non, Q2, juste noter la belle perf de Pierre Gasly aussi, 5e, de toute façon il l'a dit par rapport à Kiat, mais voilà, c'était souligné, la 5e, et Norris 3e, bon, mais on verra que certaines choses se sont répétées.
Aussi. Les Renault qui sont plutôt en forme aussi.
Aussi.
Oui, c'est vrai que sous la pluie, on a bien vu les McLaren, et c'est vrai que Norris était très agressif plusieurs fois en glissade. Voilà, les McLaren ont vraiment repris du poids de la bête sur ces qualifs.
Et ouais, et Ocon qui pendant toute la qualif était vraiment excellent. Ricciardo, ça a jamais été un Cador sous la pluie, mais Ocon vraiment hyper satisfaisant, là qui a vraiment pris du poil de la bête et c'est encourageant pour la suite.
Oui.
Donc la Q3, messieurs, en 10e position, on reviendra du coup sur les pilotes. Sébastien Vettel, bon, il a été très discret en Q3, comme en Q2, comme en Q1, comme en essai libre.
Je pense que comme depuis 10 jours.
Le plus intéressant, c'était les essais libres 3. Voilà. Daniel Ricciardo partira 9e, Pierre Gasly est 8e sur l'Alfa Tauri. Alexander Albon est décevant en 7e position, derrière Lando Norris 6e. Esteban Ocon est 5e, 4e, Valtteri Bottas, qui donc pas mal de place par rapport à sa pole de la semaine dernière. Carlos Sainz est un surprenant 3e, tandis que Verstappen est 2e. Alors le premier, j'aime
loin
pas
devant.
En parler. Mais en loin fait, devant. Le premier, il est même pas à la première place, il est au virage numéro 5. voilà. Lewis Hamilton partira au virage numéro 5 demain, voilà, puisqu'il s'est qualifié avec 1,2 seconde d'avance sur Verstappen, alors qu'il avait déjà 7/10 d'avance. Voilà. Il a remballé tout le monde pour l'hiver. J'ai même pas vu son tour embarqué, mais ça doit être un chef-d'œuvre. Voilà. Donc bon.
C'est impressionnant, regarder le tour embarqué.
Il y a autant d'écart entre lui et Verstappen qu'entre Verstappen et Vettel en 10e place.
Oui,
c'est dire que c'était serré quand même pour Ferrari.
Excuse-moi de te corriger, Benlop. Il y a plus d'écart entre Hamilton et Verstappen qu'entre Verstappen et Vettel.
Oui, c'est grosso modo, il y a 1,2 seconde grosso modo dans les deux cas, mais il y en a un petit peu plus, effectivement, entre Hamilton et Verstappen. Alors, sans oublier que Verstappen est lui-même...
un bon pilote sous la pluie.
Non, mais surtout que Vettel, il est 7/10 derrière Norris, sans vouloir vexer qui que ce soit. Donc, ça veut dire qu'entre Hamilton et Lando Norris, qui est, parce qu'on a une petite rectification à faire, du coup, parce que tu donnais la grille à l'issue des qualifications, mais gardons à l'esprit que Lando Norris...
Ah oui, c'est vrai, oui, excuse-moi. Ouais,
pas de souci, mais c'est... Lando Norris prend 3 places de pénalité puisque son infraction sous drapeau jaune en FP1, qui lui coûte, qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure parce que manifestement c'était pas important. Mais du coup, Lando Norris part 9e. Mais l'écart est absolument démentiel, quoi. Hamilton qui met la même distance entre lui et le deuxième qu'entre le deuxième et le dixième, c'est juste, ou même plus, du coup, comme tu disais, Buchor, c'est un tour. Si vous l'avez pas encore regardé, regardez-le. C'est absolument une leçon.
C'est un tour parfait, quoi. C'est
alors après, c'est justement ça, je relativiserai quand même. Faut remettre en perspective cet écart-là avec le fait quand même qu'on est sous la pluie et que effectivement le pilote qui arrive à faire un tour parfait dans ces conditions-là, le différentiel est forcément, faut le sortir hein, le tour parfait. Mais le différentiel, il est forcément extrêmement important.
Ouais, mais ils sont dans les derniers tours de la Q3, ils sont rares ceux qui ont réussi, ceux qui arrivaient à améliorer.
Après, il y avait
Oui.
Verstappen aurait pu peut-être un peu améliorer son temps. Et c'est ça qui a arrêté en moins gros.
Et du coup, c'est pour ça, déjà, Lewis, il avait amélioré, il avait pris, je crois que Verstappen, à un moment donné, avait la pole provisoire, Lewis le bat, derrière, il en remet une couche, je me demande s'il l'améliore pas 3 fois d'affilée, mais je pense que j'en suis pas du tout sûr. Mais voilà, alors qu'on voyait que tous les autres, ils arrivaient pas à améliorer, etc. Parce que je pense que aussi les pneus pluie devaient commencer à être, parce qu'ils ont, en fait, ils sont partis en début de Q3 et ils ont roulé toute la Q3. Il y a quasiment pas qui se sont, ils sont rares ceux qui se sont arrêtés. Donc les pneus devaient être usés et c'est comme, non mais Hamilton c'est comme à Silverstone. Les pneus sont morts, je te claque le meilleur temps.
Puis, Hamilton qui a commencé dès le début de la séance à dire à Bono, écoute Bono,
fous-moi la paix.
Lui chanter une chanson. Écoute Bono, je m'en occupe.
Laisse-moi tranquille.
Ce que j'ai à faire. Laisse-moi tranquille. On se retrouvera après à côté du double box et puis c'est bon. On dira que c'est des pâtes au saumon.
Ouais.
D'ailleurs, ouais, vous avez vu, il y a les sous-titres des pour certaines.
Excellente addition, quand ils ont le temps de les mettre, ils les mettent. Excellente addition, notamment en termes d'accessibilité, parce que même nous, ça peut nous être utile pour le moment où Jacques Villeneuve ou Julien Febreau oublient de se taire.
ou que le réalisateur oublie de balancer le son.
Peut-être qu'ils m'ont entendu, hein, parce que je me suis quand même suffisamment plaint de ça, mais peut-être qu'ils m'ont entendu, ils disent ça, que Benlop, il a pas tort, et des fois, Jacques Villeneuve, il ferme pas sa gueule, et du coup, on va mettre les sous-titres. Non, surtout en termes d'accessibilité, c'est hyper bien. Pour les personnes malentendantes, en vrai, c'est un énorme progrès, parce que ces personnes-là avaient toujours été mises à l'écart d'un paquet d'informations qu'on a par la radio, et c'est un vrai progrès de la F1 de ce côté-là. Et je pense que
ce qui n'empêche pas
globalement.
Ce qui n'empêche pas la réalisation de nous passer deux fois la radio de Leclerc qui ne marche pas.
Ils ont essayé deux fois. Ils ont essayé très très fort.
Donc c'est la 89e pole position, si ma mémoire est bonne, de notre ami Lewis Hamilton. En vue quand même une course, moi qui me semble quand même assez intéressant, parce que Hamilton n'était pas très satisfait de sa première journée. Là, il fait la pole dans des conditions très différentes. Demain, ça va retourner sur le sec. Verstappen était plutôt satisfait. Faudra voir demain ce que ça donne. De manière générale, sur cette grille, on a les Force India qui pourraient remonter. Les Ferrari, c'est une interrogation. Les McLaren qui sont sortis du bois aujourd'hui, mais est-ce que c'est viable ? Voilà, ça promet quand même un Grand Prix demain potentiellement très intéressant. Avec, pour moi, une incertitude quand même sur la victoire. L'écart de Lewis Hamilton sur la qualif, on pourrait très bien ne pas le retrouver nécessairement en course. Est-ce que vous partagez cet avis ?
Ben moi, vendredi. Vas-y, Bouchard.
Pardon, j'allais juste dire que heureusement pour les autres participants, d'autres pilotes de la F1, heureusement qu'Hamilton en ce moment il n'a pas la tête dans la F1, il est distrait, il est. T'imagines, il aurait collé deux secondes à Verstappen sinon.
Mais oui, mais lui il reste sur ce putain de circuit pendant une semaine.
Est-ce que c'était vraiment très dur en vrai? Est-ce que c'est si dur que ça de se dire on nous demande de rester au même endroit et l'intégralité du cirque de la F1 reste ici? Est-ce que c'est très dur de pas aller me balader à Monaco comme un connard?
Ah bah, apparemment, c'est compliqué pour certains.
Pour certains, c'est compliqué pour d'autres. Ouais. Ah, mais franchement.
Bah, les autres pilotes avaient qu'à amener des camping-cars aussi gros que celui d'Hamilton qui doit être super bien équipé. Quoi. Ils n'ont qu'à pas venir avec des pauvres tentes.
Mais le truc, c'est que celui d'Hamilton prend toute la place. Il n'y avait plus de place. C'est ce qu'il a dit, Charles. Il a dit, vous étiez obligé de retourner à Monaco, il n'y avait plus de place.
Il faut les distances, la distanciation, tu sais, il l'a pris. Moi, je prends l'avion et je me barre. Ok.
Mais donc, comme tu disais, vendredi, on a vu que Verstappen avait un gros rythme de course, alors que Hamilton, lui, il a vraiment pas fait de tour dont il était satisfait. Il n'était pas confortable avec la voiture. Je pense que si Verstappen peut surprendre Lewis, je l'ai dit complètement comme Toto Wolff. Deux, trois premiers virages, on peut avoir une course hyper intéressante pour la tête. Et je pense que s'il le passe pas, on aura de toute façon une course très intéressante pour tout le reste du plateau.
Ouais. Ouais. Déjà, je suis curieux de voir ce que Ocon va donner en partant de cinquième, etc. Mais après, je me méfie parce que tu te souviens l'année dernière, le vendredi, les Mercedes sont derrière, ça va pas, ils sont pas contents, ils arrivent au moment des qualifs, meilleur temps, et le dimanche après-midi, ils collent 30 secondes au second, quoi. Donc, je me méfie de Mercedes qui est quand même capable de trouver dans la nuit tous les réglages qui vont bien.
Bien sûr,
sans tu sexy. Penses qu'ils cachent leur jeu?
Non, je pense que sincèrement, ils galèrent le vendredi, mais qu'ils ont des mecs très compétents et en nombre, et que du coup, qu'ils se mettent à tous réfléchir et ils trouvent les bons réglages pour la course. Tu sais, des gens compétents, des personnes que n'ont pas Ferrari.
On a dit qu'on parlait pas de Formule 2, voilà.
Mais non, ils ont Laurent Mekies, Inaki Rueda. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux, c'est la Dream Team.
C'est pour le week-end, pour le warm-up. La course demain, si ma mémoire est bonne, c'est 15h10. Le départ sur Canal+, sport décalé ou ce que vous voulez.
Tout court, mais bon.
On fait un petit détour sur les actus parce que comme cette semaine, ça a été marqué d'actu. Moi, je fais quand même un bref retour sur cette histoire de nos deux pilotes, Charles Leclerc et Valtteri Bottas, qui se sont fait rappeler à l'ordre parce qu'ils ont quitté leur bulle. Alors, dans le cas de Valtteri Bottas, il est retourné à Monaco et visiblement, on n'a pas de preuves. Voilà, visiblement, il est retourné dans sa maison chez lui voir sa femme et puis ils avaient une échographie à partout.
Mais qui faisait partie... Oui, mais sa femme qui faisait partie de sa bulle le week-end dernier. Donc, du coup, il reste là. Il n'a pas interagi avec d'autres personnes que des personnes en dehors de sa bulle. Contrairement à quelqu'un d'autre.
Charles Leclerc, visiblement, lui, il est allé au casino, il a fait une partouze, il a fait plein de trucs.
Il a pris des photos, apparemment.
Il a fait des bulles, quoi.
Enfin, je suis au courant de rien, mais visiblement, on l'a vu quelque part avec des gens, etc. Donc, moi, ça me pose quand même un gros problème. Je pense que ça a déjà été dit, mais c'est vraiment un gros problème. Pour moi, on aurait dû... Alors, Bottas, à la limite, bon, s'il se met dans une autre bulle et si c'était autorisé, parce que visiblement, il y a eu un rappel à l'ordre, ce qui a fait l'objet du rappel à l'ordre, c'était pas trop le fait d'avoir quitté le circuit, mais c'était de s'être sociabilisé en dehors de sa bulle, comme le prévoit le protocole qui a été mis en place par la F1. Donc ça, c'est le problème qui fait qu'on a un peu remonté les bretelles à Charles Leclerc. Ça fait deux fois qu'on remonte les bretelles à des pilotes Ferrari, mine de rien. Ferrari, Italie, territoire très touché, etc. On est quand même là face à une situation où on est en train de faire des Grands Prix deux fois sur le même circuit. Pas pour le plaisir, mais juste pour sauver des putains d'emplois qui sont menacés. Et tu as ton pilote vedette qui se barre à Monaco faire le mariole devant tout le monde, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est... À la limite, ils sortent, mais au moins, tu lui passes la consigne, tu lui fais comprendre, ou même lui doit comprendre qu'en ce moment, c'est pas possible. Tu fais gaffe, tu mets ton masque tout le temps, tu respectes bien les consignes et tu restes dans ton coin. Mais là, non, le mec, il va se prendre en photo et il montre qu'il se sociabilise. Fait, à la clé, si lui, il est malade et qu'il apporte à un moment donné la maladie, ou même s'il n'est pas symptomatique et qu'il l'apporte, c'est potentiellement la saison de Formule 1 qui s'arrête, c'est des pilotes qui s'arrêtent, c'est des mécaniciens qui sont malades, et c'est potentiellement des écuries qui ferment la porte. Donc, moi, je trouve que c'est scandaleux que la FIA se soit contentée d'un petit rappel à l'ordre. Il fallait lui imposer une quarantaine, enfin, une quatorzaine pour commencer, ce qui lui aurait rendu service. Il n'aurait pas vu la Ferrari pendant 14 jours, ça l'aurait aidé. Mais il fallait lui mettre une quatorzaine, qu'il comprenne et qu'on envoie un message clair à tout le monde. On fait ce calendrier tel qu'il est actuellement parce qu'il faut sauver les meubles, parce qu'on traverse une crise qui est extrêmement importante. Et ça, c'est visiblement pas compris de la part notamment des pilotes Ferrari.
Et je trouve ça, et je suis d'accord avec toi, je trouve ça d'autant plus surprenant et répréhensible de la part de pilotes Ferrari, donc Italie, la Lombardie spécifiquement. Enfin, c'est vraiment c'est les premiers concernés en fait, et c'est c'est hallucinant en fait de les voir s'en foutre comme ça. Vettel, ce qu'il a fait, c'était un peu moins énervé parce que il était quand même que avec des gens du paddock. Ils sont tous dans leur bulle ultra testée, etc. C'est con, et en termes d'image, ils cherchent un volant. Non mais voilà, c'est con et en termes d'image, c'est pas terrible. Mais au moins, il n'est pas parti faire la bringue à des milliers de kilomètres, quoi.
Je trouve que c'est ultra égoïste de leur part, même Bottas. Hein. Ouais, tu dis, ouais. Je sais pas, il y a une semaine à faire en Autriche, vas-y.
Ça va aller, quoi. T'as l'intégralité du paddock de F1, de F2 et de F3 qui arrivent à s'y plier. Est-ce que c'est si dur que ça, quoi?
Les gars, ils partent comme deux canards, là.
Et les mecs, ils sont dans leur motorhome perso parce que c'est des pilotes et que c'est les petits cons de pilotes à qui on donne tout, là. Et les mecs, ils sont dans des motorhomes spécifiques perso, etc. Je veux dire, l'immense majorité du paddock à côté, ils vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles, là. Toute cette période-là, ils sont enfermés, tout le monde dans le circuit, tout le monde joue le jeu. C'est juste pas possible, quoi. Mais en vrai, je commence à penser que Leclerc, avec tout son talent, c'est quand même un sacré petit con, en fait.
Mais il a eu sa réaction. C'était quoi déjà? Il a dit ouais, de toute façon, quand j'ai été testé deux fois avant de partir, j'ai eu les résultats, c'était négatif, machin. Bah ouais, mais t'as eu les résultats, t'étais déjà à Monaco.
Non, mais enfin, c'est
ridicule. Moi, je trouve ça vraiment ultra égoïste et complètement débile, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de. En fait, c'est juste un code de déontologie qu'ils ont. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de.
Tu allais dire autre chose. C'est juste un code.
Non, mais c'est vrai. Il y a. C'est un truc un peu un gentleman agreement. Il n'y a pas vraiment de.
Je sais pas si la FIA peut pas sanctionner. Ne serait-ce que pour enfreinte à l'image du sport ou un truc comme ça. N'oublie pas que Vettel avait dû écrire une lettre, la première.
Non, mais il y a quand même eu des affaires. On a parlé du, je sais plus quel était le nom de ce tournoi de tennis de l'Adriatique ou un truc dans le genre avec Djokovic, organisé par Djokovic, où
il l'a chopé. Voilà,
ça a fait la bringue, il l'a chopé, tout le monde se l'est refilé. Enfin, c'est une catastrophe. Enfin, à un moment donné, il faut juste avoir un peu du jeu, quoi. Il faut juste comprendre que de toute façon, tu sais très bien que tu vas passer, je crois, c'est 12 grands prix sur 15 semaines. Bon bah voilà, tu prends ton mal en patience et surtout tu passes du temps avec ton équipe, ce qui n'est pas du temps perdu. Hamilton l'a dit, moi je suis resté sur place, j'ai pu discuter avec mes ingénieurs. Mais oui, en fait c'est ça aussi l'intérêt, c'est que tu passes du temps avec ton ingénieur. Donc en fait aujourd'hui, le message qu'il envoie un peu Leclerc, c'est que bah, au final je préfère aller m'amuser plutôt que de passer du temps avec mes ingénieurs pour essayer de résoudre des problèmes ou de trouver des, ou de trouver des solutions. Mais c'est quoi le management quoi ? Enfin c'est ridicule.
Mais tant Leclerc, qu'est-ce qui se tracasse ? Sa Ferrari, il n'y a pas de problème, elle marche super bien.
Son contrat Ferrari, il n'y a pas de problème, il marche super bien. Surtout.
Son contrat, apparemment. Dire, il est bien.
Ouais. Non, mais c'est. Ouais, je. C'est...
Moi, il m'a déçu sur ce coup, Leclerc, vraiment.
C'est un peu déplorable. Et en fait, ce n'est pas la première fois que Leclerc, il laisse transparaître un très grand égoïsme. Et je pense que. Et je suis désolé, Dino, mais je pense qu'on n'est pas prêt de voir Ferrari sortir de l'ornière, en fait.
Ne sois pas désolé, moi je suis en train de changer d'écurie. Ouais.
Oh bah écoute, je comprends. Si tu veux, j'ai un pull Red Bull.
C'est qui offrira un paquet à Vettel, moi je l'adore.
Ah bah, si tu veux, j'ai un pull et un bonnet Red Bull si tu veux t'équiper avec cela, si jamais.
Je te fous pas trop de ma gueule non plus, mais.
tu vas soutenir ton équipe dans My Team, je sais pas quoi là, sur F1 2020.
Tout à fait. Ah mais oui! Ah oui, voilà, alors, ça va détourner les comptes du SAV, je vais lui offrir un baquet. Seb, si tu veux, on a 250 euros, je peux t'offrir. Il a dit que le pognon, ça comptait pas. En tout cas, au niveau des crossings, ça va être une autre soupe en Hongrie, puisque je sais pas si vous avez vu l'info, mais en Hongrie, les dispositions ont été précisées par la Hongrie. Tous les ressortissants qui sont en dehors de l'Union européenne doivent rester soit sur le circuit, soit à leur hébergement, soit sur le trajet entre le circuit et l'hébergement, soit entre le circuit et l'aéroport et pour sortir. Mais ils n'ont pas le droit de sortir de leurs hébergements ou du circuit pour aller manger, pour aller quoi que ce soit. Les repas doivent être pris sur place et uniquement pour les ressortissants hors UE. C'est recommandé pour les ressortissants de l'Union européenne, mais pour tous ceux qui sont en dehors de l'Union européenne, il y a interdiction de sortir et de se sociabiliser. C'est dans ta chambre, dans ta voiture, sur le circuit, et uniquement ça. Sinon, c'est 15 000 euros d'amende, voire une peine de prison.
Attends, la Hongrie, qui est concerné ? Parce que des hors UE, il y a quoi ? Il y a
la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne.
Bah, déjà, toutes les équipes anglaises.
Ah, tu penses qu'ils vont les compter hors UE ?
Bah, ils sont
précisé britannique et hors Union européenne.
D'accord, parce que du coup, je suis en train de me demander si Albon, ils avaient considéré comme Thaïlande ou Royaume-Uni.
C'est pareil.
Sans la vraie nationalité, mais du coup, c'est pareil, absolument. du coup, il y a d'anglais. Ouais, en fait, ça fait beaucoup de monde, effectivement.
Du coup, tu as Ferrari qui est plus ou moins à l'abri.
Ouais, Leclerc, il pourrait aller faire la teuf à Monaco, du coup.
AlphaTauri.
Ouais, là, il y a qu'un Grand Prix. Il va pas se barrer entre les qualifs et la course quand même.
Ah, je suis sûr qu'il en est capable.
Mais alors, visiblement, ça pose quand même un espèce de petit challenge logistique pour les équipes qui, du coup, se doivent aujourd'hui de trouver des solutions pour nourrir tout leur personnel qui sera en Hongrie, les nourrir directement dans leur chambre ou trouver des solutions d'hébergement qui permettraient. Enfin, voilà, ça oblige quand même un petit peu d'avoir cette contrainte-là et cette gestion un peu différente. Ça nous montre quand même, ça nous rappelle quand même dans quel contexte se déroule cette saison de Formule 1, quoi.
Ils vont être obligés d'avoir un hôtel avec room service, c'est un peu... Ah merde alors.
Ils vont pas être patatialo et pas sec, c'est pas ça quoi.
Et ils pourront pas aller au Formule 1, ah trop marrant.
Moi, mine de rien, moi j'ai une pensée pour tous les mécanos, toutes les petites mains des écuries qui sont du coup les moins bien lotis, parce qu'on voit les super camping-cars sur les circuits des pilotes de F1, et encore je parle même pas forcément de celui d'Hamilton, qui bien sûr il a le plus gros
qui pourrait accueillir tout le paddock
il a les moyens, il aurait tort de s'en priver, je serais comme lui, hein, j'aurais mon petit confort, mais je pense à tous les mécanos de ça qui doivent être, comme tu dis, si ça se trouve ils vont manger sur un plateau repas dans leur chambre, ça doit être galère pour eux quoi. Du coup, ils ont une pensée pour eux qui, pourtant, ce sont eux qui font tourner, que les voitures roulent. Ne pas les oublier.
Ouais. Tel que tu décris ça, je les imagine avec un sandwich Sodebo derrière d'autoroute, tu sais. Ouais.
dans un Algeco, tu sais.
Ouais, mais...
avec c'est filmé un peu gris, tu sais, la couleur désaturée. Il pleut dehors, il y a une musique avec une œuvre de piano qui fait. Et ça a été réalisé par les frères Dardenne, absolument.
On parlait des petites mains de la Formule 1. Je voudrais vous annoncer le futur pilote Renault.
Voilà. Ah ouais, j'ai vu que la filière de la Renault Driving Academy avait super bien marché.
Bah oui, puisque, bon, ne faisons pas de suspense, hein, ne faisons pas comme Renault, qui a fait beaucoup de suspense pour annoncer son pilote de 2021 et 2022, c'est Fernando Alonso qui fera donc son retour après deux saisons d'interruption hors F1 à bientôt 40 ans, 39 je crois, qu'il va fêter cet été, aux côtés donc d'Esteban Ocon. Voilà, Fernando Alonso, est-ce que c'est un bon, un mauvais choix pour Renault? Est-ce que, voilà, est-ce que ça vous excite un peu? Est-ce que vous en battez les couilles?
Bon, manifestement, ils ont une case dans leur budget, avoir un pilote qui coûte cher. Et puis voilà. Enfin,
il faut qu'ils la bloquent.
Non, mais en vrai,
faire des économies, non. non, on fait pas d'économie.
Tu sais le mème du mec là qui doit appuyer sur deux boutons, il a le choix, c'est virer 15 000 personnes, embaucher Alonso.
Oui, c'est ça. ils ont qu'un bouton.
Le bouton, ils en même temps. Vite, quick. Non, mais voilà, c'est un bon choix en termes de communication. Moi, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça excite beaucoup plus les gens qui suivent pas vraiment la Formule 1 que les gens qui suivent la Formule 1. J'ai genre des collègues qui suivent pas ça du tout. Ah putain, Alonso, il revient, il paraît que machin, etc. Alors que les gens que je connais qui suivent la Formule 1, bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais ils n'ont pas beaucoup parlé, quoi. Et puis tout le monde est un peu circonspect, genre ouais, franchement, Alonso, ça va, qu'on lui avait dit au revoir. Mais en tout cas, en termes de communication pour le kidam entre guillemets, oui, non, ça va être formidable. J'en doute pas une seconde. Après, sportivement, alors, soit il détruit Ocon, soit il détruit l'équipe. Donc,
on se retrouve avec deux choix compliqués.
Et non, si il fait les deux. Généralement, il fait les deux. Hein.
Eh ben, moi, à mon avis, c'est que s'il détruit pas Ocon, il pourra pas détruire l'équipe. Hein, mais voilà. Après, sur Alonso, pour le talent que c'est, je pense qu'il a il a toujours l'envie et le talent, il a toujours. Je pense que qu'il ait 35 ou 40 ans, ça changera rien. Que le pilote Alonso revienne, on aura enfin une vraie idée du niveau de la Renault avec Alonso, ça c'est sûr. Moi, ce qui me gêne dans le retour Alonso, c'est les Monsieur Communication Alonso, quoi. Et toutes ces phrases qui pouvaient balancer la meilleure course de ma carrière. Laisse-moi finir.
Fernando, il a dit, il a changé. Il est comme Macron, il a changé.
Sarkozy aussi avait dit ça.
Mais oui, j'espère. Mais tu vois, c'est ce que j'espère. Je me suis dit que la façon, je pense qu'il s'est fait foutre dehors de la Formule 1, parce qu'à un moment donné, c'est pas lui qui est parti, c'est on l'a poussé vers la sortie. J'ose croire qu'à un moment donné, ça, pendant ces deux ans, s'il s'est un peu remis en cause et que du coup, il va pas revenir comme il était en 2018. C'est vraiment ce que j'espère. Si on retrouve le Alonso qu'on avait en 2018, en 2021, ouais, ça va être chiant.
Attends, donc là, tu espères que Fernando Alonso s'est remis en question. Est-ce que tu as déjà entendu Fernando Alonso?
Vous avez écouté vous avez écouté l'interview qu'il a donnée là sur la F1?
Écoutez, laissez-moi le droit d'allumer une cierge et faire une prière, punaise.
on peut pas t'enlever l'espoir, effectivement.
Je vous demande de vous arrêter.
Parce que c'est vrai que sur l'interview qu'il donne, il était toujours je veux revenir, je suis capable de faire des bons temps, je suis capable de ci, je.
Ah, mais il parle pas de Renault.
Aucun moment, il a parlé de Ocon et de Renault. À la fin de son interview, il parle de l'équipe pour la fin de cette saison-là, qui va essayer d'aider l'équipe avec le simulateur, blabla, machin, machin. Mais c'est tout. Autrement, c'était que je.
Ah non, mais ouais. Moi, mon fou regard du week-end, c'est j'avais oublié qui était le directeur de l'écurie. Et à un moment donné, Canal+, ils interrogent Cyril Abitboul sur l'arrivée d'Alonso. Et
ça me dit, mais pourquoi? Pourquoi ils interrogent Cyril?
J'ai compris que Alonso allait être le patron de Cyril. Et ça m'a fait rire.
C'est vrai que c'est pas mal.
Alors, on parlait du prix, visiblement, d'après certains échos, en fait, Alonso, il aurait un très petit salaire, visiblement, il aurait à peu près 1 million par saison. Je pense qu'il a dû négocier des bonus ou des... Bon, il y aura sans doute du Kimoa sur les droits.
Mais du Kimoa partout sur la bagnole.
C'est pas toi qui l'avais fait le tweet. Oui, Renault Kimoa, F1 Kimoa.
DP World. Ça se trouve, il va racheter l'équipe, il va la détruire pour la racheter à 10 euros et puis ça sera bon. Mais on sent quand même. Alors, moi, je suis très critique envers Alonso. Voilà, j'aime pas. Autant j'ai une profonde admiration pour le pilote qui fait effectivement des trucs avec des bagnoles parce qu'il a tout le temps fait des mauvais choix de carrière. Donc, en fait, il a tout le temps des trapanelles. Donc, forcément, il fait des trucs incroyables avec. Ça me fait plaisir de le voir en piste. J'ai très hâte de voir Monaco l'année prochaine parce que je pense que l'un des pilotes qui me fait le plus vibrer à Monaco, c'est Alonso parce qu'il est d'une agressivité entre les rails qui est incroyable. Mais voilà, ce qui me fait un peu craindre, c'est ce côté com. On le sent déjà. Le mec, il a déjà la petite tenue Renault. Il fait déjà une vidéo Snapchat en français. D'ailleurs, arrête, Fernando. Faut plus faire ça. C'est une mauvaise idée. c'est drôle quand c'est Ricciardo, quand c'est toi, ça me fait peur. Mais on dirait un vieil oncle, tu sais, qui veut te faire du mal.
C'est vrai,
écoute,
qu'il y avait un peu
on a la famille qu'on a, écoute, qu'est-ce que tu veux que je...
Mais après, j'avoue que l'histoire que nous raconte Alonso, j'ai envie d'y croire. C'est-à-dire que fondamentalement, Alonso à 40 piges, qu'est-ce qu'il va chercher avec Renault en fait? Il va chercher, si déjà il arrive à faire quelques podiums et à avoir des bons résultats, je pense que il y a deux choses qui me font plaisir. Le premier, je pense que Alonso, il a envie encore d'apporter des choses et sans doute d'en prendre encore dans la F1. Mais je pense que s'il prend Renault aussi, c'est qu'il a bien conscience que Renault, ça va pas forcément être le truc qui va lui permettre d'être champion du monde, mais déjà d'avoir des résultats. Et je trouve que c'est quand même un moyen de rentrer dans l'histoire et de soigner sa sortie. Le deuxième truc qui me fait plaisir, c'est quand on commence à regarder un petit peu les pilotes de F1 à une époque où on critique énormément la Formule 1 sur « oui, c'est trop facile pour les pilotes, oui, c'est pas assez attractif ». Mine de rien, Kimi Raikkonen, qui voulait faire un titre de champion du monde, plus jamais revenir, il a fait 3 ans de WRC, il est revenu en Formule 1 et aujourd'hui, il s'éclate jusqu'à 40 ans. Alonso, qui voulait plus entendre parler de la Formule 1, c'était trop compliqué, etc., il revient. Vettel, qui regrette les V12, en fait, il veut rester parce que lui, il aime bien la F1. Donc, ça me fait plaisir quand même de me dire…
C'est des drogués, c'est tout en fait. Hein.
Mais oui, c'est des drogués.
Il leur faut leur dose.
Et j'aurais aimé voir un jeune, mais le jeune, ils l'ont déjà, ils ont Ocon, ils vont miser là-dessus. Et puis Alonso va pas non plus faire 4 ou 5 saisons. Ils ont le temps de laisser pousser des jeunes ou ce genre de choses qui vont sortir à un moment donné. Au pire, ils créeront une deuxième équipe. Voilà, ça me fait plaisir quand même de revoir Alonso, ne serait-ce que pour ça. Quoi. Je trouve que ça a ce côté quand même, la F1, bah, la F1, c'est pas l'endurance, la F1, c'est pas le rallye raid, heureusement. voilà. Et il y a qu'en F1 qu'on trouve ces trucs-là. Même si je pense que Alonso, il va aussi essayer de faire son business et de trouver une meilleure sortie que sa sortie effectivement chez McLaren, qui était pas très très classe, quoi.
Moi, l'arrivée d'Alonso, elle me rassure sur quelque chose, sur ma capacité propre à faire des prédictions et sur la qualité de mes paris sportifs. Parce que alors, j'avais pas mis de billets là-dessus, hein, et j'ai bien fait manifestement, parce que dimanche dernier, alors que je regardais le Grand Prix avec un ami, je lui ai dit
en mangeant des pâtes au saumon.
Il n'y a pas de pâte au saumon, on s'est fait livrer un Burger King. Voilà. Moi, j'ai pris un double steakhouse, j'ai fait rajouter un steak, du fromage et du bacon en plus. Franchement, c'était vachement bien.
Attends, j'ai mangé quoi dimanche?
Colle au ventre, même, ton truc-là.
Mais donc, on regardait le Grand Prix, et puis pendant le Grand Prix, et évoquer la rumeur Alonso, où on en parle, je sais plus, bref. Et je dis, très très sûr de moi, je dis, Alonso, jamais ils vont le faire revenir, Alonso, tu verras, ils vont annoncer, ils vont garder les sièges libres, et puis à la fin de l'année, quand Zou, il aura ses points de super licence, parce qu'il sera arrivé troisième au classement général de F2, ils mettront Zou à ce moment-là, parce qu'il fait partie de la filière, etc. Donc encore une fois, la qualité de mes prédictions reste remarquable, et je suis fier de faire partie d'un podcast qui est spécialisé dans un sport que je comprends si bien.
Bye bye, 50 euros.
Non, ouais, écoute, ça, c'est pas encore joué. Hein, 75 euros.
T'y crois encore, hein, t'y crois encore.
25 sur Verstappen, 50 sur Red Bull, je te rappelle. Parce que, évidemment, je mets plus de sous sur Red Bull parce que je me dis, tu vois, que la paire de pilotes, en plus, tu vois, ils ont vraiment une tendance à ne pas favoriser un seul pilote en particulier. Et donc, c'est vraiment le classement constructeur qui joue, tu vois. Donc, vraiment, je suis intelligent comme gars. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on pourra évoquer aussi ensuite. Gasly, c'était pas le problème. Voilà.
Non, mais si t'as. Si t'avais une. Si t'as besoin d'une preuve comme quoi tu bois trop, tu l'as.
Non, mais j'en ai pas besoin de preuves, tu sais, déjà que la région où j'habite, déjà, est une démonstration.
C'est vrai. Mais sinon, moi, pour revenir à Alonso, je m'inquiète pas trop pour Ocon. Déjà, il a une année avant l'arrivée d'Alonso pour se faire à l'environnement Renault. Ouais, 6 mois, pardon. Ouais, bon. Bah, il est depuis le 1er janvier, il est chez Renault, même pas avant, mais bon, bref. Je pense pas que ce soit Ricciardo qui soit problématique comme coéquipier.
Il est surtout habitué à l'environnement de son appartement de chez Renault. Pas vraiment à l'environnement de Renault.
Mais après, Ocon, il a démontré que mec est quand même bien établi en F1, il pouvait faire jeu égal avec lui, quitte à en perdre des roues. Mais... Donc voilà, je pense que...
Ça peut être explosif.
Tu viens de me faire penser, mais Ocon-Alonso, vu comment ça s'est passé Ocon-Pérez, Ocon-Alonso, ils vont faire exploser l'usine, quoi, c'est obligatoire. Enfin,
Franchement, il va falloir
des ailerons, tout ça. Hein. Préparer les machines. Hein.
S'il y a bien une chose qu'Ocon a prouvé, c'est qu'il ne s'écrasait pas devant son coéquipier. Hein.
Non, il l'écrase dans des murs à la place, mais après, parce qu'il se laisse pas faire, effectivement, mais il se laisse pas faire. Et en face, ça va être Alonso. Et Alonso, il va pas se laisser faire non plus. Franchement, ils vont juste tout péter, quoi. Chez Renault, ils vont être là, mais c'est quoi le trou dans le budget encore? On a viré 15 000 personnes, enfin. En fait, c'est le 12 000e aileron avant. De produits.
Et puis, Ocon, il a aussi, je pense, des liens aujourd'hui avec Hamilton. Un retour d'expérience d'Hamilton. Peut-être qu'il pourra aussi compter un peu sur ça. Il a tout appris à côté d'Hamilton. Mais voilà, il pourra peut-être aussi un peu s'appuyer sur ça, parce que finalement, Hamilton, c'est quand même le mec qui a battu Alonso. Comme d'autres mecs. Non, ils n'ont pas été nombreux.
Il n'y en a pas beaucoup.
Oui, bon, Grand Prix d'Allemagne 2010, désolé, mais Massa, il bat Alonso, si on ne lui demande pas de le laisser passer.
S'il n'avait pas reçu un putain de message qu'il avait distrait.
Mais comme Felipe Massa est un paillasson, on lui a demandé de le laisser passer, et puis il l'a fait,
Donc en tout cas, cette arrivée de Fernando Alonso chez Renault a été un peu le point d'orgue de ce que j'appellerais la semaine noire de Sébastien Vettel. Chez Renault, alors déjà, il y avait son Grand Prix de la semaine dernière. Grand Prix.
Il a les portes qui se ferment les unes après les autres.
Dans les grandes largeurs. Hein, parce que... On rappelle un petit peu, revenons sur la saison des transferts de Sébastien Vettel. Donc du coup, il est viré de Ferrari sans trop le savoir lui-même, à cause du confinement, on vous rappelle. Il mise tout sur Mercedes. Mercedes fait les choses bien. Le patron de Mercedes vient visiblement en Autriche pour voir le Grand Prix. Il a vu le Grand Prix, hein, puisque apparemment c'était le grand patron de Mercedes qui tenait à avoir peut-être Vettel dans son équipe, et personne d'autre chez Mercedes. Il a compris, visiblement, qu'il était au fond du problème.
Il s'est dit, mais attendez, c'est le mec là qui est à l'envers sur le circuit.
Il a un nom avec des K dedans, donc moi je connais Kakeli Cox avec des K dedans, donc voilà.
Générique.
Il a fait une interview où il dit que on va garder les mêmes pilotes, et puis on lui parle de Vettel, et puis je sais plus ce qu'il dit, mais
on va garder les mêmes pilotes.
Je pense qu'il a dit plus tard, effectivement.
J'ai eu mal à mon cœur parce que voilà, il a eu des mots quand même sur Vettel qui n'étaient pas très tendres. Ça s'est rajouté avec des mots de Louis Camilleri, si je me trompe pas, qui a un petit peu remis à sa place Vettel en milieu de la semaine. Donc c'est le PDG de Ferrari qui a dit expressément que Sébastien parle un petit peu trop de la voiture, parce que Vettel a beaucoup parlé de la voiture qui était inconduisible la semaine dernière et qui est totalement nouvelle cette semaine. Alors après, il y a eu l'hypothèse de Racing Point, hein. C'est fini. Red Bull, on nous a promis que jeudi ce serait une journée d'annonce Vettel, il y aurait des surprises encore plus surprenantes qu'Alonso. La surprise, c'est qu'il s'est rien passé. Et puis il n'y avait pas de place, visiblement, chez Red Bull. Cela dit,
Helmut Marko et Christian Horner disent que ça ne se produira jamais, que c'est impossible. Donc il a déjà signé. Je rappelle que Pierre Gasly est toujours dans la Red Bull. Ah non.
Dans un mois à Barcelone, ils annoncent Vettel dans la Red Bull en 2021.
De ce côté-là, je reste circonspect.
Non, mais effectivement,
c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Red Bull qui est la piste numéro 1 de Vettel, visiblement, aujourd'hui.
Mais apparemment, non, temps, j'ai apparemment, Matt Eschitz, qui est quand même le grand patron et propriétaire de Red Bull, qui serait quand même bien content que Vettel retourne à la maison. Par contre, Horner et Marco, apparemment d'une voix unanime, synchronisée, ont dit non.
Mais oui, parce qu'en fait, Matt Eschitz, il est au-dessus, et en fait, il a l'impression que Verstappen, c'est le meilleur du monde, quoi qu'il arrive, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver un autre pilote au niveau de Verstappen. Alors que Horner et Marco, ils savent très bien que c'est pas du tout ce qui se passe.
Bah, ils savent pourquoi Verstappen décrase ses coéquipiers.
Eux, ils savent pourquoi le coéquipier de Verstappen, il fait jamais rien. Parce qu'en fait, ils le mettent pas dans les conditions. Mais Matt Eschitz, lui, il est au-dessus. Et le seul truc qu'il dit, c'est, bah merde, franchement, pourquoi on a qu'un seul pilote à ce niveau-là? Et il se rend pas compte que c'est pas un problème de pilote. Moi, je suis convaincu qu'il y a un truc comme ça qui se passe, hein, chez Red Bull. Mais, rouvrons la discussion du coup là-dessus, hein, parce que, quoi qu'il arrive, si ça se concrétise et que Vettel retourne chez Red Bull, il va se faire rouler dessus par Verstappen de toute façon, toutes les raisons bonnes ou mauvaises, hein. Mais moi j'ai pas du tout envie qu'il retourne chez Red Bull, parce que même si il est au top de son niveau et qu'il va hyper vite et qu'il est hyper fort, et ce dont je pense de Albon et de Gasly, c'est deux pilotes très rapides, mais ils peuvent pas le montrer chez Red Bull, parce qu'il y a Verstappen et que c'est l'équipe de Verstappen et qu'elle fonctionne autour de Verstappen et que c'est Verstappen avant tout. Vettel, même s'il arrive là-bas et qu'il retourne au sommet de la forme, il sera pourri, quoi. Et ce sera horrible à regarder.
Retourner avec son ex, c'est jamais une bonne idée.
C'est vrai, c'est ravaler son venir.
On sent le vécu.
De quoi, ravaler son venir, retourner avec son ex?
Non. Retourner avec son ex.
Ah merde. Ah.
Mais oui, pardon, par contre.
Sébastien.
Ouais, vas-y.
Bon, pour Sébastien, ça laisse trois hypothèses. L'hypothèse Racing Point, futur Aston Martin, Alfa Romeo, et moi, une hypothèse qui me plaît bien, c'est AlphaTauri. Voilà, bon, bah, visiblement, bah, en ce moment, on suit, en fait, à chaque fois avec Vettel, on suit un peu le classement. Donc, il a essayé Ferrari, puis bah, après Red Bull, puis bah, Renault, on y a cru. Bon, bah, Racing Point, bon, bah, ça va se finir chez Williams, hein, on le sait bien.
Alors, j'aurais vraiment bien vu Vettel chez Renault.
Oui. Je comprends pas le choix de Alonso, hein, mais voilà. Je pense que il y a plus de marketing, et puis bon, parce que c'est un il envoie plus quand même d'énergie positive à Alonso aujourd'hui. Il a envie de bouffer le truc. Là où c'est vrai qu'on sent pas ça. Enfin, quand Vettel te dit lundi, oui, je vais aller faire un petit tour dans la forêt.
Non mais une montagne. Attends.
faut lui mettre deux gars avec lui qui l'accompagnent. Tu peux faire une connerie.
Non mais tu rigoles.
Ne connais pas.
Tu rigoles, mais j'ai quand même vu passer sur un site très sérieux d'actualité du sport automobile où bosse un certain chroniqueur du SAV, donc c'est quand même sérieux. J'ai quand même vu passer le titre d'un article, Vettel, entre guillemets, non, je ne quitterai pas Ferrari en cours de saison. On en est là, que les journalistes en viennent à poser cette question. Nous on n'y est pas, mais pour que les journalistes posent ce genre de questions à Vettel, et qu'ils doivent préciser ça, c'est que ça doit être la tension dans l'écurie doit être, l'ambiance doit être pourrie, quoi.
Je suis désolé, oui, je m'en remets pas de l'image de Vettel qui s'en va son motorhome avec Ferrari qui lui colle deux gars au cul, genre, surveillez-le, il va faire une connerie. Je m'en remets pas du tout. Imaginez deux mecs qui lui courent après. Non, c'est, mais attends. On sait qu'il y a des montagnes, c'est facile de se jeter, mais arrête, fais pas de conneries.
Ah putain, reviens, on a des raviolis, nous aussi.
On va décoller au saumon, putain. Pardon, j'écoutais pas du tout Bouchard, pardon, je suis vraiment désolé.
Sébastien Vettel a demandé à, si je me trompe pas, c'est Martin Brundle, une interview jeudi prochain. Voilà, Martin Brundle lui a demandé mais pourquoi Sébastien, et puis visiblement la réponse a permis de sous-entendre qu'il y aurait peut-être des trucs de croustillants, donc voilà, donc on pourrait avoir des nouvelles. Moi, ce que je trouve très étonnant, c'est que Sébastien, il est encore dans la position de « oui, alors il faut que je prenne une décision ». Mais en fait, tu veux décider quoi, Sébastien? Enfin, genre, t'as 15 minutes.
Tu te voiles la face, Sébastien, tu te voiles la face.
Mais oui. Là, t'es pas en train de choisir des couches culottes. Normalement, tu devrais savoir où t'en es ou t'en es pas. Est-ce que t'as envie de rester en F1 ou pas? Bon, visiblement, il a envie de rester en F1. À partir de là, c'est plus ta décision. Ou alors, ça veut dire qu'il a déjà une offre, mais que l'offre est pas satisfait pas aujourd'hui peut-être son ambition. Peut-être que c'est une offre de Red Bull sur AlphaTauri, par exemple. Ce qui serait pas un mauvais baquet, parce que finalement, l'AlphaTauri au niveau de la Ferrari aujourd'hui. Donc bon.
Mais... finalement, pas de gros changement. Et puis, il déménage pas très loin. Mine de rien, ça reste en Italie en vrai. Ouais.
Bah oui.
Quand tu y penses.
Ou alors.
Tu parlais de.
Ouais. Ou alors, c'est Vettel qui fait une offre, mais à Williams pour racheter l'écurie.
Pourquoi pas. C'est ça l'investisseur sérieux finalement, peut-être.
C'est peut-être ça.
Non, mais tu parlais d'Alfa Romeo aussi, et j'ai, par contre, j'ai ça, vraiment pas envie quoi. Bah attends, mais enfin, il va faire quoi? Il va juste retrouver son pote en fait. Vas-y, Antonio, casse-toi, laisse-moi à côté de Kimi. C'est quoi le projet quoi? Bah grave, c'est quoi le projet quoi? C'est de toute façon Alfa Romeo, bon bah ils vont végéter au fond du classement parce que bah bon déjà ils sont un peu nuls et en plus ils ont le moteur Ferrari. Alors ils sont un peu nuls, je dis ça. C'est... Manifestement ils montraient des belles promesses en termes de développement et puis là maintenant ils font du surplace complet et puis bon le moteur Ferrari encore une fois ça les a pas aidés. Mais je vois pas ce qu'ils iraient foutre là-bas quoi. Ah oui, une fin de carrière comme Raikkonen aller dans une voiture.
Ouais,
bah,
ce route-là, autant aller chez AlphaTauri et tu fais ouais la boucle est bouclée. Je termine là où j'ai commencé, basta quoi.
Ouais, non mais.
Et puis, un poil plus de sens. Même si, enfin, quand même moi j'ai énormément de mal à l'imaginer dans une petite écurie. Enfin, je sais pas. Ce serait.
Ça serait bizarre. Non mais Vettel, il a vu que Codemaster avait implémenté le mode My Team dans le F1 2020. Et ben Vettel, il va faire My Team en 2021, mais avec dans la réalité.
Il va se pointer avec son petit motorhome perso. Tu sais, le vieux comme dans Breaking Bad, voilà, il va venir, il va se garer, puis il n'y aura personne, puisqu'il n'y a pas vraiment d'équipe.
Il sera tout seul. Mais il sera de nouveau tout seul.
Il viendra avec sa petite chaise en plastique de réunion, tu sais, se mettre sur la dernière place de la grille, et, tu sais, prêt à conduire. Non, Sébastien, il faut que tu partes. Là, tu auras drapeau jaune à hasard et sur la piste. Non, vraiment, faut vraiment que ça se résolve parce que je vais pas tenir. Là, je suis en train de devenir fou. Messieurs, on était un petit peu en Italie avec Sébastien Vettel, même s'il est en Autriche, lui il reste sur place. Je vous propose de rester en Italie puisqu'on aura deux doses d'Italie, hein, donc d'autant plus de chances de se confier avec nos amis italiens pendant le coronavirus, la deuxième vague, puisqu'on ira au Mugello le 13 septembre prochain. Ça a été confirmé en plein milieu des essais libres, voilà. Et puis 30 secondes derrière, on a confirmé qu'il y aurait, ça fait plaisir à tout le monde, un Grand Prix de Russie à la date initiale, le 27. Voilà, donc calendrier pour le monde de 12. D'autres confirmations devraient venir dans les prochaines jours.
De 10, Dino. Parce qu'il n'y en avait que 8 pour l'instant. 10,
oui.
Plus,
oui, effectivement, 10.
Ouais.
Donc,
je me projette déjà.
Donc, oui, oui. Grand Prix au Mugello, donc Grand Prix de Toscane. Ça fait classe quand même. Ça sent bien, je trouve.
Grand Premio de la Toscane, 1000.
Grand Prix de la Toscane, 1000 Ferrari.
Ouais. Comment est-ce qu'on dit 1000 pas... en italien?
Et ça tombe. Ouais. 1000. Et le Mugello qui est une propriété de Ferrari.
Oui.
Donc, mais ça va faire très chic quand Mercedes va gagner, parce que du coup, ce sera écrit et Mercedes oui. gagne le Grand Prix Ferrari 1000.
C'est tellement ça en plus.
Contrairement à Mercedes qui faisait la fête l'année dernière parce qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner à Hockenheim, là, Ferrari a commandé le champagne. Ils ont rien
pour l'offrir, ils pour l'offrir à Mercedes.
Non mais beau circuit Mugello, j'avais l'intention de refaire quelques tours du coup dans Assetto Corsa pour voir comment était la piste et j'ai absolument pas eu le temps donc je vais avoir absolument aucune information à communiquer au sujet de ce circuit donc ça va être très intéressant mais c'est une belle piste rapide, je sais pas vraiment s'il y aura beaucoup d'opportunités de dépassement sur le Mugello, combien de zones DRS.
C'est ça, les voitures de maintenant sur le Mugello, ouais c'est...
Les hôpitaux sont prévenus, hein. Tous les hôpitaux sont mobilisés sur ce week-end-là, parce qu'il va y avoir de la casse. Enfin, c'est un circuit dingue.
Ouais. Mais ça fait, moi, franchement, ça m'a fait plaisir quand ils ont annoncé le Mugello. Je suis là, waouh! J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Déjà, c'est un chouette circuit, c'est un beau tracé, ça change des trucs de.
Non mais ne nous cachons pas, on est content de voir des anciens circuits, des circuits connus en Europe arriver au calendrier de la F1. C'est les conditions qui, certes, qui poussent à ça, mais ça fait plaisir. C'est comme normalement on devrait avoir Portimao au Portugal qui devrait. Apparemment, c'est bientôt, c'est quasiment fait.
Ouais, c'était quasiment.
Pareil, ça, revenir au Portugal, c'est génial, quoi.
En vrai, moi, le Mugello, ça m'a quand même pas fait autant plaisir que la Russie.
Ah, putain, d'accord. C'est vrai qu'il y a eu une ascenseur émotionnelle. Toi. Tu annonces le Mugello, tu fais ouais, cool, putain, enfin, j'étais vraiment content. Et dans la foulée, tu annonces le Grand Prix de Russie et Matou, tu fais ah, pff, ouais.
Alors, oh. comme disait Buchor, là, ce que la rumeur dit pour l'instant, c'est qu'en fait, c'est quasiment fait avec Autodromo do Algarve, là, à Portimao, et avec Hockenheim aussi. Donc on aurait deux courses supplémentaires encore à ajouter au compteur, donc là on arriverait à 12, non, ce que tu voulais, et on a le Vietnam qui doit encore être reschedulé et manifestement ils tiennent à le faire cette année, la Chine,
mais
ça a l'air compliqué,
ils ont
mais...
eu l'accord d'ailleurs des autorités pour organiser deux grands prix du Vietnam à quelques mois d'intervalle en fait,
et du coup là bon, la Chine ça a l'air un peu compromis à nouveau, c'est un peu compliqué la situation là-bas manifestement, et on aurait potentiellement deux fois Bahreïn et une fois Abu Dhabi, et ça nous emmènerait à 15-16 courses quoi. Effectivement on aurait un calendrier complet. La bonne nouvelle par rapport à la Russie, j'y tiens beaucoup, non, la bonne nouvelle par rapport à la Russie, c'est que la F2 n'y va pas.
Voilà. Oui. La F2, normalement, ça devrait se faire en public.
La
billetterie du grand. Alors visiblement le alors c'est, j'ai pas d'infos officielles, mais j'ai pas de confirmation officielle, mais visiblement la billetterie pour le Grand Prix de Russie avait repris il y a quelques jours.
D'accord. Parce que
Vladimir... Ça avait été un indice qui annonçait que le Grand Prix de Russie serait confirmé.
Vladimir Poutine a dû déclarer que le Covid n'existait pas et donc on est censé lui faire confiance. Je pense que ça devrait être un critère pour dire qu'on n'y va pas en fait.
C'est clair. COVID, ça donne pas du tout envie quoi.
Et les mecs ils roulent à briller, ok, ils sont complètement inconscients, mais écoute pourquoi pas. Mais ouais, donc la F2 va au Mugello, ça ils suivent le Mugello, et du coup ça les amènera, parce que c'est un peu d'info F2 que j'ai eu, hein, que je vous partage de ce côté là, mais du coup la F2 va au Mugello et la F3 aussi d'ailleurs, donc ça les amène à 9 courses, et après ils auront très probablement une très grande interruption jusqu'à deux fois Bahreïn et une fois Abu Dhabi. Et ça les amènera à exactement 12 courses, qui était le nombre de courses prévues pour la saison. Donc ils auront rempli leurs obligations contractuelles avec notamment les pilotes et les sponsors. Donc eux, ils seront à la cool de ce côté-là. Et les équipes ont budgété pour faire trois courses overseas, enfin trois flyaways. Et du coup, ils auront les trois s'ils font deux fois Bahreïn et une fois Abu Dhabi. Donc tout semble pointer dans cette direction-là pour eux, en tout cas. C'était de l'info sérieuse, hein, pour une fois, je me fais de jeu.
Mais justement, on attendait la chute.
Je m'en remets pas.
Ouais, c'est quand même. Enfin, ça reste quand même. Enfin, ça reste très spécial, quoi. D'en rajouter des courses comme ça. Tiens, on va remettre deux courses là. Après, on va remettre.
Ouais.
Deux courses là.
Et vous noterez
c'est
quand
très,
même.
Bizarre. Quoi.
Vous noterez quand même l'incapacité d'en rajouter un circuit français au calendrier. Hein.
Ouais, c'est vrai. Rappelle-toi, Ricard, bordel.
En France, on a choisi d'abandonner. C'est.
C'est ça.
On parlait la dernière fois, comme pour la Ligue 1.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, c'est ce que vous aviez dit, mais ouais. Regarde, la Ligue 1 va reprendre le 25 août, je sais pas quoi, là.
Bah, la prochaine saison, en fait. Et du coup, c'est une nouvelle saison.
Ah ouais, tu veux dire que là, ouais, on peut pas faire la saison. Ouais, d'accord.
Exactement, ils ont choisi de terminer les compétitions en cours et de dire non, alors que bon, en vrai, là, le Paul Ricard, en plus, on est en train d'aborder, pour une raison que j'ignore, une nouvelle phase de déconfinement, et en vrai, on pourrait à nouveau organiser sans problème, mais ils ont choisi de tout annuler, de tout foutre par la fenêtre, parce que manifestement, c'était ça qu'il fallait faire, et ça m'énerve autant, en fait, c'est encore un truc qui m'énerve, et ça m'énerve autant que, tu sais, les gens qui disaient, genre, on était au mois à la mi-avril, et les gens disaient, mais c'est bon, abandonner toute la saison directement, faut pas, ça sert à rien d'insister, machin, etc.
Bah, qu'est-ce qu'on a bien fait de pas les écouter à ces gens-là.
Je dis rien, mais je soutenais cette position. Mais juste sur le Paul Ricard, je pense qu'il y a aussi une raison derrière, qui est une raison économique, c'est-à-dire que regardons quand même aussi quels sont les circuits qui aujourd'hui restent au calendrier. On a très clairement, on a l'Autriche, bon, c'est le Red Bull. Hein. On a Silverstone parce que c'est quand même le berceau de la F1 et on peut ne pas y aller. La Hongrie,
Barcelone.
Hongrie, c'est un
peu. Il n'y a pas de truc.
Monza.
Ouais, là, il n'y a rien, mais quand tu regardes sur la fin de saison, c'est des Grands Prix en Italie, donc pas parce que Ferrari, des Grands Prix aux Émirats Arabes Unis, la Russie s'est maintenue, le Vietnam parce qu'on insiste. On sent bien que la Chine, ils ont envie d'essayer de faire en sorte que ça soit maintenu, mais c'est aussi des pays qui peuvent se permettre. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la France, ils ont préféré se dire on tire un trait dessus, on n'organise pas et on revient l'année prochaine. Ça permet d'avoir un cadre stable plutôt que d'attendre éternellement d'avoir une date, de recaler un truc. En plus, sur un circuit qui est quand même un circuit qui est pas mal booké, qui a un modèle économique aussi qui fonctionne sur des réservations ou ce genre de choses, peut-être plus que d'autres circuits. Donc je pense qu'ils ont préféré se dire, voilà, on lâche l'affaire pour cette année et on se concentre sur l'année prochaine. Ce qui, moi, me semble être quand même un choix aussi raisonnable.
Et les bons arguments. Mmh. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est que en pratique le Ricard, si on avait insisté un peu et attendu pour accueillir au Ricard, on aurait probablement pu faire des courses de suite et sur des configurations différentes si on avait eu envie.
Et c'est la question que je me pose, c'est n'oublie pas que Bahreïn a plusieurs configurations possibles. Est-ce que ils vont pas en profiter ?
Ils ont déjà prévu de faire.
Normalement, Bahreïn, on aura la configuration F1 classique et la route périphérique. Donc normalement, on aura deux grands prix.
L'Oval.
Ouais, le fameux ovale qui tourne dans les deux sens. Enfin, bref.
Après, et malgré tout ce que je reproche à ce circuit qui est pas forcément au top pour les courses, mais à Abu Dhabi, pareil, il peut proposer des tas de configurations. Je comprends pas d'ailleurs qu'à Abu Dhabi, il le fasse pas deux fois.
Ouais, c'est étonnant.
Abu Dhabi, je crois
qu'après...
Si on regarde, il y a une configuration club et une configuration nationale aussi.
C'est ça.
Qui doivent pas être grade 1.
Ouais,
il n'y a pas autant de variantes que ça.
Il y a des espèces de routes d'accès en angle droit pourri là au milieu qui servent littéralement même pas pour le rallycross. Je crois qu'à Abu Dhabi, non, il n'y a pas tant de possibilités que ça. Hein. Le circuit, il n'est pas très.
Non, mais tu vas avoir raison, c'est une question d'homologation des tracés. Tandis que Bahreïn, oui, je suis quasiment sûr qu'ils ont plusieurs tracés homologués grade 1.
Oui. Bah, au moins ces deux-là, plus le circuit endurance de 2010, là, qui était tout pourri.
Voilà, messieurs, on a fait le tour de l'actu. Je fais juste un petit détour par une interview que je vous invite à lire sur le site de Motorsport. C'est les déclarations dont on a un peu parlé cette semaine de Romain Grosjean, qui trouvait que Hamilton était payé un peu trop cher. Hein. Voilà, je cite exactement. Certains étaient pour, d'autres contre. Oui, je trouve inadmissible que Lewis Hamilton gagne plus de 40 millions et que d'autres pilotes gagnent 150 000 par année pour faire le même travail. Je trouve que c'est une phrase qu'on a pris comme ça et qu'aujourd'hui sur Twitter, j'ai vu qu'on avait jeté à la tête de Grosjean quand il était sorti de piste en disant voilà pourquoi il vaut pas 40 millions. En fait, Grosjean, il se aussi de porte-parole de réflexions qui sont menées au sein du GPDA et c'est dans une réflexion un peu plus globale. Je vous invite vraiment à lire l'article de Motorsport. Alors, je sais pas qui l'a écrit, je sais pas si c'est notre chroniqueur à nous, mais bon, c'est la même maison. Mais ne serait-ce que dans le titre, on réutilise pas cette phrase-là comme ça peut être sur le Parisien ou ce genre de choses qui sont assez putaclic, mais c'est le titre, c'est Grosjean aurait voulu une réduction des coûts plus drastique. C'est vraiment dans une réflexion globale sur la réduction des coûts. C'est un point de vue qui est assez intéressant et qui est en plus intéressant parce que c'est le point de vue d'un pilote qui est plutôt pour qu'on intègre les salaires des pilotes dans le budget qui est soumis à réduction des coûts. Donc voilà, je trouve que c'est une réflexion assez intéressante qui est ouverte par Romain Grosjean et qui vient en plus du GPDA. Voilà, donc on a l'occasion de voir un peu ça, quoi.
Et puis quand tu prends l'intégralité de la phrase, et donc du coup surtout avec la fin qui est souvent occultée, c'est en fait, l'interprétation que tu peux en faire et que j'en fais, c'est que lui, c'est lui, il est plus choqué pour les mecs qui touchent que 150 000 quand les salaires peuvent monter jusqu'à 40 millions. Il faut, à mon avis, pour plus le voir comme ça.
Tout à fait.
Ouais, parce que je l'ai lu l'article, effectivement, je vois aucune attaque dans les propos de Grosjean et que tu as bien que tu lis tout. Tu n'as pas d'attaque de Grosjean sur Hamilton, pas du tout.
Non, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites et surtout sur la déformation des propos de Grosjean qui a été faite. Alors, je n'ai pas envie de dire par certains journaux parce que dans les articles, ils en parlent en général à peu près correctement, mais au moins dans les titres et donc dans l'opinion publique parce que bon, tout le monde lit les titres et pas les articles. Oui. Par contre, j'ai quand même un reproche à faire à Grosjean là-dedans. quand t'es porte-parole, ben en fait, il faut que tu maîtrises ton expression, quoi. Quand t'es porte-parole, et que t'es Romain Grosjean avec la réputation, juste ou pas, et probablement pas, que tu te trimballes, bah, t'as besoin de mesurer un peu ce que tu dis et sortir une phrase comme ça, dont tu sais qu'elle pourra être sortie oui, de son contexte très facilement, je pense qu'il fait une erreur.
Ah oui, il fait une
le détournement
qui est un comme...
Voilà, le détournement qui en est fait derrière, c'est hyper moche et les gens font semblant de ou font pas semblant d'ailleurs, ça se trouve pigent rien parce qu'ils sont cons parfois. Mais et pour mettre des trucs sur le dos de Grosjean parce que c'est une cible facile depuis X années. Mais je pense que quand même Grosjean, il faut qu'il s'améliore sur la façon de communiquer qu'il peut avoir parce que il fait toujours paraître des trucs qui dont on est tout le temps obligé ensuite de justifier et dire ouais non c'est pas ce qu'il voulait dire, c'est vrai qu'il a l'air de râler mais machin. Et mais en fait c'est un bon gars etc. Et en vrai bah il faut quand même qu'il maîtrise un peu plus sa communication, surtout en tant que porte-parole.
Ouais.
Vas-y. Je cite juste un extrait de l'article, une de ses déclarations. Le point qui a été amené, c'est que si l'on plafonne les salaires des pilotes, on casse toute l'échelle du sport auto, qui mettrait de l'argent dans les filières de jeunes pilotes pour payer leur catégorie, si derrière, ils ne peuvent pas rentrer dans leurs coûts en prenant un pourcentage des salaires élevés des pilotes. Voilà le débat. Personnellement, je n'étais pas forcément contre le fait de mettre le salaire des pilotes dans le plafond budgétaire. Après, effectivement, si l'on se demande quel constructeur ou quel manager va venir dépenser des fortunes sur un pilote pour ensuite reprendre 20% de quelque chose qui est plafonné et ne jamais rentrer dans ses frais. Et là, il met les points de suspension. Mais voilà, c'est dire quand même ce qui est très intéressant dans les propos de Grosjean, c'est qu'il montre aussi qu'il y a tout un système en fait économique et que ben voilà, derrière le salaire de 40 millions de Hamilton, moi c'est 40 millions pour lui, mais c'est aussi des commissions sans doute qui sont données et qui font vivre un écosystème autour. Et pour certains pilotes, je pense que c'est là aussi il se défend, c'est dire voilà, quand on paye un pilote que 150 000 euros, bah ça veut dire que concrètement, on le paye lui que 150 000, mais ça veut dire que du coup, le pourcentage qui est pris par son manager, par la filière, par ses sponsors, le retour d'investissement, il est forcément minime. Donc, il minimise du coup la volonté d'aller soutenir des pilotes. Et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant et ça qu'il faut réfléchir dans le contexte actuel, qui est quand même un contexte où on s'inquiète. Et on doit s'inquiéter du sport. On a beaucoup parlé de la survie des écuries. Il faut parler aussi de la survie des pilotes, des carrières de pilotes. Il y a des carrières de pilotes qui vont être tuées dans l'œuf par ce qui se passe actuellement, parce que bah, voilà, la logique économique va devenir encore plus rigoureuse et que le talent qui ne suffit déjà plus aujourd'hui pour percer en Formule 1, des pilotes talentueux, on a vu en karting qui ont disparu par la suite, bah, ça va être encore plus dans la difficulté aujourd'hui. Donc voilà, c'est toute cette réflexion-là qu'il faut avoir, pas uniquement sur la Formule 1 ou sur les écuries, mais vraiment sur tout l'écosystème global des sports mécaniques.
Et c'est pour ça que c'est d'autant plus triste ce détournement qui est fait de ses propos, ouais. Et des gros titres qui résument ça en « gros j'en dis, ouin ouin, je gagne pas assez », alors que c'est pas du tout son propos, effectivement.
Non, effectivement.
C'est ça les propos qui lui sont prêtés, et c'est quand même hyper, hyper triste.
Oui, alors que c'est pas du tout le cas. Non, là, effectivement, non. Niveau com, là où l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a nommément cité Lewis et son salaire, alors qu'il aurait pu dire « les pilotes payent des dizaines de millions » et la phrase gardait ses propos gardait le même sens, mais voilà. Là, le truc, c'est que il y en a un, il s'attaque à Lewis, c'est son salaire, machin, alors que non.
Et honnêtement, j'ai conscience quand je dis que Grosjean commet aussi l'erreur de formuler les choses maladroitement. J'ai aussi conscience quand je dis ça que ça donne un peu l'impression que je remets la faute sur la victime, parce que c'est clairement dans le cas présent, la victime du détournement des propos, c'est Grosjean, et c'est pas sa faute. Oui. S'il y a des sacs à merde, voilà, je veux vraiment insister là-dessus, c'est pas sa faute s'il y a des sacs à merde qui font n'importe quoi avec ce qu'il a dit. En même temps, pour citer notre très cher président,
il sait comment ça marche.
Non, mais en même temps, la communication, c'est l'art d'être compris. Et quand tu communiques, bah, t'as besoin du coup de penser à ce que tu vas dire. Et comme tu dis, Buchor, c'était pas très habile de citer Lewis Hamilton. Je suis sûr que effectivement, s'il évite le fait de citer le nom d'un autre pilote, on n'en parle pas de ça. On n'en parle pas parce que personne va interpréter ça comme oh regardez, il se compare avec Hamilton. Et du coup, il aurait évité le shitstorm, quoi.
C'est ça aussi le truc, c'est que je pense que l'autre rôle aussi des médias, c'est que si on n'en parle pas de ça, c'est-à-dire que si lui ne parle pas d'Hamilton et ne sort pas cette phrase-là, est-ce que derrière,
L'article est moins repris. L'article est moins repris.
L'article est moins repris et même nous, on va pas le lire. On s'en fout. Alors que c'est intéressant. Je pense qu'il y a un peu. Je vais faire la comparaison. Tu sais, Ben Lop, qu'on a une interprétation assez différente, mais c'est aussi un peu ce qu'a fait Lewis Hamilton quand à un moment donné, il a pris tout le monde un peu au dépourvu en leur disant voilà, vous êtes des stars de la F1. J'en ai marre d'être tout seul. Voilà, il est obligé d'être un peu percutant s'il veut qu'à un moment donné les choses bougent. Et là, dans la communication de Grosjean, il y a peut-être ça aussi, c'est-à-dire que malgré tout, on le sait très bien dans la presse aujourd'hui, si tu donnes pas une petite phrase, ton article, il va pas être en première page, mais il va être à l'intérieur dans les pages de sport. Alors que là, avec cette phrase-là, tu sais que cette phrase-là va être prise et potentiellement derrière, ça va quand même donner un peu d'écho à l'article. C'est ça qui est regrettable aussi, c'est que là, on est dans le schéma de la presse et voilà qu'on peut regretter. Mais je pense, hélas, que cette petite phrase, elle était nécessaire pour donner de l'écho, même si dans les faits, effectivement, la plupart des gens s'arrêtent à la petite phrase et ne vont pas lire le restant de l'article.
Oui, parce que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est sûr que l'article, il a eu une diffusion plus importante à partir du moment où il y avait cette phrase, mais je pense que c'est pas volontaire de sa part, en fait, tu vois.
Alors, soit c'est une erreur et c'était maladroit, soit c'était volontaire et c'était peut-être très bien joué.
Parce que non, je pense que Grosjean, à aucun moment, il se dit, tiens, je vais provoquer une espèce de grosse shitstorm autour de ça pour me faire chier dessus à l'infini.
Non, mais il représente le GPDA en plus, c'est-à-dire qu'il est vraiment en porte-parole, quoi. Enfin,
voilà, je pense qu'à aucun moment, c'est calculé, en fait, ce qu'il fait. Et si ça, ce que tu dis, c'est très juste. Avoir la petite phrase percutante, c'est super important, mais ça aussi, ça fait partie de l'art de la communication aussi. Et avoir la petite phrase percutante qui fait que les gens s'intéressent à la problématique que tu veux soulever, c'est autre chose que dire une espèce de phrase un peu maladroite qui fait que les gens vont se foutre de ta gueule et jamais s'intéresser à ce que tu dis, en fait. Parce que là, en fait, le problème, c'est que Grosjean, dans l'opinion publique et des gens qui ont lu le gros titre et qui ensuite sont passés à autre chose et sont foutus de la gueule de Grosjean, bah, en fait, il n'est pas crédible. Et du coup, demain, Grosjean, porte-parole du GPDA, bah, il va s'exprimer et puis les gens disent « Ah ouais, c'est lui le mec qui pense qu'il devrait gagner autant qu'Hamilton. » Et en fait, plus personne ne va le lire. Et le problème, c'est que au contraire, c'est presque un problème qu'il ait autant attiré l'attention avec cette phrase-là, parce que du coup, c'est vraiment la phrase qui va à l'inverse du propos qu'il voulait tenir. Et je suis parfaitement d'accord, vraiment, pour dire que il faut avoir la petite phrase, la formule qui percute, mais la formule qui percute et la petite phrase, tu l'écris avant chez toi et tu la trouves pas en improvisation pendant l'interview, quoi, tu vois. C'est parce que sinon, putain, alors sur là, je serais bien malheureux pour lui, en tout cas.
J'ai trouvé une super phrase. Je trouve qu'en fait, Hamilton, il touche trop 40 millions. Ah, et... c'est bien, mon Romain.
T'es sûr que tu veux pas parler plutôt des puissances de freinage à la place?
En tout cas, Romain,
bien Marion, si tu nous...
mais t'as vu, Romain, si tu nous écoutes, nous on est preneurs de la recette de tes penne au saumon.
Oui, c'est vrai.
Tu maîtrises un peu le domaine, ouais. Voilà.
Ouais. Ben Lop, il est plus preneur de l'assiette après que tu aies fait les penne.
Mais je mange pas les assiettes, qu'est-ce que tu racontes?
Par contre, les penne.
Ah, manger les penne à l'intérieur de l'assiette, tu veux dire?
Oui.
Sinon, ça fait mal aux dents.
Oula, je veux pas savoir. Messieurs, je pense qu'on a fait un tour assez approfondi de l'actu. On rappelle juste à nos auditeurs que, en fait, ils ont raté le début parce que ils nous ont écouté un peu tard. L'émission est un peu longue, donc mettez-vous sur Canal Replay pour voir le début du Grand Prix parce que là, vous avez tout loupé. Hein. Vous allez voir.
N'oubliez pas le mode expert
au premier tour. Voilà, Vettel, il a déchiré tout le monde. Il est premier, mais il est sur trois roues. Enfin, voilà, c'est.
Et à l'envers.
Un pronostic pour demain, messieurs. Et on se quittera là-dessus.
Je veux retrouver mon argent. Verstappen gagne.
Non, moi je vais miser sur Hamilton. Victoire d'Hamilton.
Je dirais Bottas, allez.
Quoi?
Ouais, gros outsider.
C'est ça.
Un carton. Carton au premier virage. Tu enlèves Verstappen et Hamilton. Bon, bah voilà.
Parce que globalement, la seule chance de Bottas dans n'importe quelle course, c'est s'il part devant Hamilton et qu'Hamilton peut pas le doubler. Parce que sinon, c'est foutu pour Bottas à chaque fois. Mais
Je suis assez d'accord.
Je comprends. Je comprends.
Pareil
sur la
pareil que tout le monde.
Et toi, Dino? Et toi, Dino?
Moi, j'irai George Russell. C'est mon doux Sébastien Vettel. Il va exploser tout le monde. Il part 11e, il a le choix des pneus. C'est bon.
Tu vas pas lui porter la poisse, quoi.
Il part pas 11e, il part 10e, Vettel.
Non, Russell.
Non, je parle Russell.
Ah oui, pardon.
Non, Vettel, c'est une tour ancienne. Non, je suis assez d'accord sur Verstappen. Je pense que Verstappen va être très agressif. Il a un truc à régler et voilà. Après, je pense que Hamilton aussi a des comptes à régler avec son Grand Prix de la semaine dernière. Oui. Donc,
non.
Du coup, peut-être Bottas, effectivement.
tu vois, les deux vont se taper dès le premier virage, on en parle plus.
Non, et puis de toute façon, je pense qu'il y a sur la Red Bull, il y a un composant Honda du châssis qui va lâcher.
Oui, au 12e tour, tu sais, pour faire mieux que la semaine dernière. c'est l'heure de conclure cette émission. Petit rappel, on est sur iTunes ou Apple Podcast, hein, sur Pod Radio, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter @leSAVF1. On est sur YouTube, où vous pouvez retrouver notamment un test en plusieurs vidéos réalisé par Fab et Ben Lop de F1 2020. Voilà, on est sur Stand F1, Actu F1, Steam. On n'est toujours pas sur Pornhub parce qu'ils n'ont pas accepté les vidéos faite par Fab et Ben Lop. Voilà, c'est
trop hardcore pour prendre.
Il n'y a pas de catégorie.
On est aussi sur Deezer et Spotify.
Et oui, c'est vrai. Et ton test est écrit à toi aussi, Dino, de F1 2020.
Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est aussi le SAV de la F1, c'est aussi un site internet, savf1.fr. voilà. Parce que le SAV de la F1, messieurs, c'est.
Tard ce soir. C'est long pour un warm-up.
Oui, pour un warm-up, là on s'est bien échauffé. En fait, on a fait tourner le moteur en attendant la fin de la pluie. Voilà, du coup.
On a changé trois fois les pneus quand même là.
On vous souhaite un bon Grand Prix et lundi, donc demain, hein, on vous confie au bon soin de l'équipe, je sais pas qui, mais il y aura du monde. Voilà, pour débriefer ce Grand Prix de Styrie. Enfin,
d'Austrie, ouais.
Ouais, ce Grand Prix, quoi. Allez, salut à tous.
Et n'oubliez pas, c'était pas Gasly le problème.
Salut.
Bye.